Neville, bonjour à mon auditoire. Nous sommes très heureux d'être de retour pour vous saluer de nouveau dans ce nom entièrement suffisant du Seigneur Jésus. J'espère que vous avez passé une semaine glorieuse, remplie de ses louanges et de ses bénédictions. En arrivant ce matin, j'ai rencontré un petit garçon là-bas et il m'a donné une petite plaque de l'ange gardien veillant sur deux petits-enfants. Et je ne savais pas que c'était le petit Dalton, le garçon des Dalton. Ici, il y a quelques semaines il y a environ deux semaines, un père chrétien, avait présenté une requête pour sa fille, une adolescente qui n'était pas encore chrétienne. Alors qu'il était dans la ligne de prière, et le Saint-Esprit a parlé, il a dit, « Je te donne ton enfant ». Et la voilà, elle est ici ce matin, sauvée et baptisée au nom du Seigneur Jésus, assise sur l'estrade, exactement comme le Saint-Esprit l'avait dit. Et les autres enfants sont tous assis là autour. Je sais que la famille Dalton est heureuse. Je vois la petite dame qui a fait prier pour son bébé dimanche passé. On pensait qu'il allait mourir. Je vois qu'il est toujours avec nous ce matin. Nous sommes vraiment contents de ça, sœur. Il pensait qu'il avait une dystrophie musculaire, mais ce n'était pas le cas. Alors nous en sommes très reconnaissants. Je vois tous nos bons amis. Je me rappelle que cet homme, ici, est venu me voir en entretien particulier à Chautauqua, une fois, je crois. J'ai pris le petit déjeuner avec vous et votre épouse et vos enfants, je crois. Ou vous et votre épouse, et les enfants aussi, oui. À Middletown, ce nom-là m'échappe. Alors je dis toujours Chautauqua. Oui, monsieur. Beaucoup de mes bons amis. Frère Charlie Cox et sœur Nelly, ici, vous avez été pour moi comme un deuxième chez nous, et c'est comme si vous étiez mes propres enfants. Je vais là-bas, c'est là que je passe la plus grande partie de mes moments de détente, là-bas. C'est le meilleur chasseur d'écureuils du Kentucky quand je suis en Indiana. Et alors, en Indiana. Et Charlie, je te le dis, j'ai vraiment, vraiment hâte, j'ai terriblement envie d'aller attraper quelques perches d'Amérique ou quelques perches arc-en-ciel avant de partir pour là-bas. J'ai vraiment l'impression que ça ne me ferait pas de tort du tout. Frère Parnell, Arnett, de la Caroline du Sud, et frères, eh bien, il y en a tellement qui sont ici, et de différents endroits, ce matin, qui sont venus nous voir. Vous savez, ici, nous n'avons pas de membres comme tels. Nous avons simplement de la communion les uns avec les autres. Tandis que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Maintenant, nous faisons une étude merveilleuse. C'est tout simplement glorieux. Et nous, du moins moi, je sais que moi, je l'apprécie. Et je sais que vous l'appréciez tous, vous aussi. Je me mets parfois dans le cours de la journée à en parler ou à lire à ce sujet. Je prends peut-être deux versets et me voilà parti dans les Écritures. Tout à coup, je me rends compte que j'ai déjà parcouru de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et je continue. Vous savez, j'aimerais consacrer une période de temps pour que nous prenions l'Épître aux Hébreux, et que nous prenions, disons, eh bien, quand ce sera la saison de la chasse à l'écureuil, disons, septembre, vers août, vous savez, et que nous fassions une étude suivie jusqu'à ce que ce soit le moment de partir outre-mer, chaque soir sur l'Épître aux Hébreux ou sur le livre de l'Exode. De quelle façon Dieu, l'Exode, alors qu'il fait sortir son peuple de l'Égypte, un Exode. C'est un très beau type de nous qui nous préparons maintenant pour notre exode à nous. C'est quelque chose de tellement beau. Tous les passages de l'Écriture sont reliés et ils forment ensemble un grand récit. Maintenant, ce matin, nous sommes encore dans l'Épître aux... Nous nous étions proposés de prendre les trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens. La lettre de Paul aux Éphésiens, à Éphèse. Alors qu'il plaçait l'Église dans sa position. Et juste avant de l'aborder, est-ce que nous pourrions prendre encore un instant ou deux pour prier, juste avant de commencer? Ô Seigneur notre Dieu, nous venons dans ta présence maintenant. Si indignes que nous soyons, nous savons pourtant qu'il y a un sacrifice sanglant qui est là, qui attend, qui nous purifie de toute espèce d'impureté et qui nous fait paraître devant le Père irréprochable, irrépréhensible. Il n'y a rien que nous ayons pu faire pour mériter cela. Mais parce que Jésus l'a fait pour nous, nous nous inclinons humblement devant sa présence et devant son nom. Et nous te demandons d'envoyer le Saint-Esprit au milieu de nous ce matin. Je ne suis pas un théologien et je ne sais pas mettre les Écritures à leur place, mais je suis seulement rempli d'enthousiasme et reconnaissant de sentir le Saint-Esprit se manifester à travers mon être. Puisse-t-il nous bénir tous ensemble alors que nous lirons ta parole écrite et qu'ainsi elle puisse devenir en nous la vie éternelle. Accorde-le, Père. Nous le demandons au nom de Jésus et à cause de Jésus. Amen. Maintenant, je pourrais commencer par dire ceci. Si jamais il m'arrivait de dire quelque chose qui soit contrariant, qui ne s'aligne pas tout à fait, qui soit peut-être absolument faux par rapport à votre enseignement, ou quelque chose avec lequel vous ne soyez pas d'accord, je mets ma confiance dans le Saint-Esprit, qu'il arrangera tout ça d'une façon tellement accommodante, tellement douce, qu'il n'y aura personne qui sera offensé. Voyez, que ça se passera dans l'amour et dans la communion fraternelle, et c'est dans cette intention-là que c'est fait. Tout ceci a commencé par la prédication de dimanche passé. Je crois que c'était dimanche matin passé, le roi rejeté. Est-ce que quelqu'un a déjà la bande? Je pense qu'ils les ont. Vous pouvez vous les procurer si vous voulez. Le roi rejeté. Encore quelques jours seulement, et nous commencerons à Middletown, dans l'Ohio. Nous aimerions que tous ceux qui prennent leurs vacances pendant cette période-là s'assurent bien de venir nous retrouver là-bas, parce que nous nous attendons à passer de glorieux moments de communion à Middletown, dans l'Ohio. C'est le docteur Sullivan qui est président, je crois, du comité. Et il y aura 5 soirs de réunion où je prêcherai comme prédicateur invité au congrès international de l'Église interdénominationnelle. Et après, là, ce sera nos réunions à nous, passer ces dates. C'est prévu jusqu'au 12, mais avec une entente, comme quoi nous pourrions peut-être même continuer encore une autre semaine. Tout dépendant de la façon dont le Saint-Esprit conduira. Nous voulons tous être conduits par l'Esprit. Exactement ce que l'Esprit nous dit de faire, alors nous voulons le faire promptement. Et souvenons-nous, alors que nous obéissons à l'Esprit, il y a une grande leçon que nous voulons apprendre, c'est de ne jamais être pressé. Voyez-vous? Prenez votre temps, ayez la foi. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu, souvenons-nous que Dieu exauce les prières. Il le fait en son temps, de la façon la meilleure. Il fait concourir la chose parfaitement bien pour nous. Et si ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce que nous faisons ici ce matin? Ça nous donne quoi de nous prétendre chrétiens? Dieu, si ceci n'est pas la parole de Dieu, alors, si elle n'est pas vraie, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je suis si content d'être de tout cœur avec un grand nombre de personnes ici qui savent que ceci est la parole infaillible de Dieu. Et elle est la vérité. Chaque parole est la vérité. Chaque mot, chaque point. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège de voir le pays vers lequel nous irons un jour. Hier, les gens ne savent pas ce que c'est, les moments de dépression qui accompagnent ce genre de ministère. J'étais vraiment déprimé, et j'ai dit à mon épouse, « Je voudrais pouvoir partir. » Elle a dit, « Pourquoi dis-tu ça, Bill ?» J'ai dit, « Oh, ici, j'ai des problèmes et tout. » Alors, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, « Est-ce que tu cherches à les contourner ? Est-ce que tu cherches à les fuir ?» Voyez. Non, j'ai dit, que je me tienne debout face à tout ça, que j'affronte la chose. Tu vois que, voyez, c'est tellement mieux. Honnêtement, réellement, je dis ceci pour l'avoir vu moi-même. Juste après cette vie ici, nous entrons dans un pays qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et s'il y a des nouveaux venus ici, j'espère que vous ne... Je prie Dieu que vous ne me preniez pas pour un fanatique. Ce que je veux, par-dessus tout, c'est d'être honnête et de dire la vérité. Qu'est-ce que ça me donnerait de dire quelque chose qui soit faux, alors qu'il y en a tellement ici qui est la vérité? Nous, pourquoi faudrait-il dire quelque chose de faux à ce sujet? Voyez, c'est tout simplement la vérité. Et pas étonnant, je crois que Paul, il a été ravi au troisième ciel. Et il a vu des choses qu'il n'était pas utile pour lui d'exprimer. Alors, un jour, il a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, c'est bien simple, nous vivons au milieu d'un tas d'ordures, ici-bas, c'est tout, d'un dépotoir plein de fumée, c'est tout en fumée par la souillure. Même si nous-mêmes, nous n'en sommes pas contaminés, il reste que nous vivons au milieu de ça, de la fumée qui se dégage des charbons fumants du péché. Une des choses qui me donne le plus mal au cœur quand j'y pense, c'est un vieux dépotoir municipal où c'est en train de brûler. Avez-vous déjà passé près de là? Cette odeur infecte de contamination, de la fumée qui monte à travers toutes sortes de saletés. Et une bouffée de ça, et vous avez l'estomac tout retourné. Je me rappelle quand je devais aller à New Albany, sur de l'autre côté de la 18e rue, où se trouvait autrefois le vieux dépotoir. Il fallait que j'aille faire des recouvrements et relever des compteurs là-bas. C'est bien simple, j'appréhendais le jour du parcours de la 18e, où il faudrait que je me retrouve dans ce coin-là, parce que j'aurais à respirer cette odeur infecte. Pourtant, et il y avait là-bas des corps de rats, de chiens et tout, vous savez, et tout ça, ça fumait, avec cette fumée qui montait à travers. Et pourtant, voilà à quoi est comparable cette vie-ci, à son meilleur. C'est tout en fumée, l'odeur du péché se fait sentir partout, pour ainsi dire, spirituellement parlant. Mais, oh, là où le vent souffle librement, et que tout est beauté, et paix, et joie, et vie éternelle, juste de l'autre côté du fleuve. Seulement, nous sommes dans un combat. Alors, il ne faut pas se contenter de s'étendre et de dire, « Dépêchons-nous d'arriver là-bas, emmenons avec nous tous ceux que nous pouvons emmener. » Oui, et maintenant le but de ces leçons, c'est d'ancrer ceux qui sont déjà traversés dans le pays. Le but de cette étude de l'Épître aux Éphésiens, c'est de placer l'Église dans sa position, à sa place exacte en Christ. C'est un type de l'Ancien Testament et du livre de Josué, alors que Josué avait fait le partage. Nous avons vu ça dimanche passé, alors que Josué avait fait le partage, donné à chaque homme sa part dans le pays. Et il l'avait fait par inspiration. Moïse il avait fait sortir le peuple de l'Égypte, de l'ail, du poireau. Il les avait fait sortir et leur avait donné un lieu. Celui que Dieu avait promis 400 ans plus tard, ou 400 ans plus tôt, comme quoi il les conduirait dans un lieu, un beau pays où coulait le lait et le miel. Et Moïse a conduit les enfants d'Israël jusqu'au pays, mais il ne les a pas fait entrer. Et Jésus, au peuple spirituel, au peuple qui le Saint-Esprit nous avait été promis dès le commencement, Jésus nous a conduits jusqu'à la promesse, mais le Saint-Esprit est venu, comme Josué, pour prendre la relève, et conduire, et diriger, et prendre possession du pays, ou prendre possession de l'Église. Nous voyons alors, en fait, que... Or, là-dessus, il se pourrait peut-être que des gens trouvent que je suis blessant, et que je veux manquer d'égard envers les frères. Ce n'est pas ça. Dieu est mon juge, ce n'est pas ça. Voyez, je veux simplement attirer votre attention sur quelque chose qui est la vérité. Voyez, nous avons choisi des hommes comme conducteurs au lieu de la conduite de conducteurs de la conduite du Saint-Esprit. Nous avons voulu que ce soit l'homme qui nous donne notre part et qui nous conduise. Que des dénominations comme les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, l'Église de Christ, les pentecôtistes et différentes dénominations, que ce soit une organisation qui serve d'exemple. Et nous suivons ça. Mais nous, nulle part dans la Bible, nous est-il dit de faire une chose semblable? Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture dans toute la Bible de Dieu où il ait jamais organisé l'Église, ni parlé d'une organisation, pas un seul endroit dans la Bible. Mais ça a toujours été le contraire. Il ne veut pas que nous nous conformions aux choses du monde. Il veut que nous soyons différents, à part. Mais je ne veux pas dire d'être ridicule, là, comme on dit. Je veux dire d'être un peuple appelé à sortir. Une nation sainte, bénie, de mener des vies irréprochables, d'agir, de se conduire exactement comme lui, il se conduirait, alors qu'il œuvre en nous. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Maintenant, mercredi soir, beaucoup d'entre vous n'étaient pas là mercredi soir. Mais nous avons vu, je crois que c'est le verset 3, ou le... Non, c'est le verset 5. À l'adoption, ou le placement des gens. Dieu qui cherche à placer les siens. Et quand Dieu en place un... Alors, oh, l'Église tout entière veut être comme celui-là, avoir le même genre de choses, faire la même chose. Nous sommes taillés différemment, nous sommes faits différemment, nous avons des natures différentes, et nous sommes placés dans des positions différentes, chacun pour un travail différent. Peut-être que l'un, c'est pour un genre de travail plus petit, et l'autre pour un travail de plus grande envergure. Je crois que c'est David, ou l'un des prophètes, je ne me souviens plus lequel en ce moment, qui disait, « Je préfère être un paillasson à la maison du Seigneur, plutôt que d'être, que d'habiter sous les tentes avec les méchants. » Maintenant, nous allons nous arrêter juste une seconde sur l'adoption, sur le verset 5, parce que nous voulons continuer à avancer le plus possible. Mais maintenant, souvenez-vous du thème, c'est entièrement sur le placement. Combien le comprennent? Je voudrais vous l'entendre dire en un seul mot, placer le corps de Jésus-Christ dans sa position en Christ, où c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et voilà, maintenant nous y sommes. Voyez-vous, nous placer dans notre position, c'est ce que l'Épître aux Éphésiens doit faire. Et observez ce docteur remarquable, Paul. La première chose qu'il fait, c'est d'éliminer toute idée de chute, éliminer de façon définitive toute idée du genre « Je suis chrétien aujourd'hui et demain je suis fichu. Et le lendemain, Dieu m'a condamné. Et le jour suivant, je suis de retour. » Ça ne tient pas debout, ça. Or, ceci, c'est... Cet épître n'est pas destiné à un enseignement d'évangélisation, à des prédications d'évangélistes. Je n'aborde pas ces choses-là quand je suis sur le champ missionnaire. Je les apporte à l'Église. En effet, Paul l'a adressé aux saints, à ceux qui sont appelés et préservés, qui sont remplis et mis à part, et dans le Saint-Esprit, déjà dans le pays de Canaan. Il essaye de leur dire la première chose, débarrassez-vous de l'idée que vous allez être perdus, et que vous allez faire ceci, et que vous avez peur de ceci. N'ayez peur de rien, car il essaie de vous dire où vous en êtes, qui vous êtes, quelle est votre position? Il pourra vous arriver de commettre des fautes, et chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevrez le salaire. Oui, monsieur, vous récolterez ce que vous aurez semé. Mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle, et vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir. Vous êtes une partie de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Je suis né un Branham, vous aurez beau me donner un autre nom, ça n'empêchera pas le moins du monde que je sois toujours un Branham. Je suis né un Branham, je serai toujours un Branham. Il se peut qu'un jour je sois tellement défiguré, tout déformé par l'arthrite, que j'ai un accident d'automobile qui me met en pièces, si bien que je ressemble à un animal, il reste que je serai toujours un Branham. Pourquoi? Il y a du sang de Branham en moi. C'est ce que vous êtes, et tant que Dieu a fait de vous. Or, souvenez-vous, je ne parle pas à ceux qui sont en dehors de Christ. Je parle à ceux qui sont en Christ. Comment entre-t-on en Christ? Par un seul esprit. Et majuscule S-P-R, ce qui veut dire par un seul Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Comment y entrons-nous? Par le baptême d'eau? Je suis vraiment en désaccord avec vous, les baptistes, et avec vous de l'Église de Christ. Ce n'est pas par le baptême d'eau, absolument pas. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit, « C'est un seul Esprit, le Saint-Esprit, qui nous fait entrer dans ce corps, et nous sommes autant en sécurité que ce corps-là est en sécurité. » Dieu l'a promis. Comment Dieu pourrait-il le juger de nouveau alors qu'il est allé au calvaire? Il est monté à Golgotha, il a été battu, meurtri, il ne pouvait pas guérir, il ne pouvait même pas prononcer un mot, presque. Pourquoi ça? Il portait les péchés du monde. Non pas parce qu'il était un pécheur, mais parce qu'il a été fait péché pour moi et pour vous. Tous les péchés du monde, à partir d'Adam jusqu'à sa venue, reposaient sur son épaule. Ce n'est pas son fils que Dieu punissait. Il punissait le péché. Vous voyez comme c'était horrible. Il était en train de faire l'expiation. Il était en train de pourvoir d'un moyen d'échapper pour tous ceux dont Dieu savait, par sa préscience, qu'ils allaient venir. Nous allons en parler dans quelques minutes. Bon, donc, quand vous êtes d'un seul esprit, nous sommes baptisés pour former ce corps-là, un seul corps qui est Christ, alors nous sommes en sécurité pour toujours. Or, voilà ce qui semble faire un effet bizarre, surtout aux croyants arméniens, qui croient qu'ils doivent faire quelque chose, qu'ils doivent avoir quelque mérite personnel, faire quelque chose de méritoire. Comment est-ce que ça peut être par deux choses à la fois? C'est soit par la grâce, soit par les œuvres, l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être par la même chose, c'est par deux choses différentes. Ce doit être par une seule chose. Je n'arrive pas à voir autre chose que la grâce de Dieu. Je suis fait comme ça. J'ai toujours cru à la grâce. Pour moi, tout est grâce, d'un bout à l'autre, simplement. Ce n'est pas, même au cours de ma vie, quand j'étais un petit garçon, je ne voyais rien d'autre que la grâce. La grâce. Ils disent, je vais, gratte-moi le dos, et je te gratterai le dos. Eh bien, c'est terrible comme expression. Mais moi, que vous me grattiez le dos ou pas, ça m'est égal. Si vous avez besoin qu'on vous gratte le dos, je vais vous le gratter de toute façon. Voyez-vous, la grâce. Oui, monsieur, voyez-vous, la grâce est agissante par l'amour. Si vous en avez besoin, peu importe que vous n'ayez jamais rien fait pour moi, que je n'ai absolument rien à voir avec vous, si vous en avez besoin, je vais le faire quand même. La grâce. Parce que vous en avez besoin. J'avais besoin du salut. Il n'y avait rien qui puisse me sauver. Il n'y avait rien que je puisse changer à mon sort. Je ne pouvais pas me sauver du tout. Mais j'avais besoin du salut, parce que je croyais qu'il y avait un Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché, pour qu'il souffre à ma place. Et j'ai été sauvé. C'est par la grâce et par elle seule que j'ai été sauvé. Il n'y a absolument rien que j'aurais pu ou que vous auriez pu faire pour vous sauver vous-même. Et ceux qu'il a connus d'avance, avant la fondation du monde. Nous en avons parlé mercredi passé. Nous nous sommes représentés Dieu quand il était Ella, Elohim. Et nous avons montré qu'il existait par lui-même. Mais en lui, il y avait la paternité. En lui, il y avait différentes qualités, telles que d'être un sauveur, telles que d'être un guérisseur. Tout ça, c'était en Dieu. Et Dieu existait par lui-même. Mais, étant donné qu'il était un sauveur, qu'il était le Père, il n'y avait aucun ange avec lui. Il n'y avait rien avec lui. Il n'y avait que lui, tout seul. Il existait par lui-même. Rien d'autre n'existait que Dieu. Seulement, étant donné qu'il était Dieu, alors il fallait qu'il y ait quelque chose pour l'adorer, parce qu'il aimait l'adoration. Et c'est par son propre être qu'il a créé des créatures pour qu'elles l'adorent. Maintenant, pendant un instant, revenons un peu là-dessus. Pendant un instant, là, on ne va pas tout revoir, mais vous l'aurez sur la bande. Seulement, parce qu'il était Dieu, là, il a fait les anges, et les anges l'adoraient. Les anges l'adorent toujours. Mais les anges qui sont dans la présence de Dieu ont 6 paires d'ailes, 6 ailes. Ils en ont 2 dont ils se couvrent la face, 2 dont ils se couvrent les pieds, et 2 dont ils se servent pour voler dans sa présence. Ils crient jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». C'est ce qui est dit dans l'Écriture. Ils l'adoraient là. Quelque chose avait été créé pour l'adorer. Ensuite, à l'intérieur de lui, il y avait l'attribut d'être un sauveur. Comment une de ces créatures-là, alors qu'il n'y avait aucun péché, ni aucune idée du péché, comment l'une d'elles aurait-elle pu être perdue? Impossible! Alors, quelque chose qui pourrait être perdu devait être créé pour qu'il puisse être un sauveur. En lui, il y avait un guérisseur. Croyez-vous qu'il est un sauveur? Croyez-vous qu'il est un guérisseur? Mais alors, qu'en serait-il s'il n'y avait rien à sauver, ni rien à guérir? Voyez-vous, il fallait que quelque chose soit créé comme ça. Alors, mais il ne l'a pas créé comme ça, là. Seulement, il a donné à l'homme le libre arbitre. Si tu choisis ceci, tu vivras. Si tu choisis cela, tu mourras. Et chaque homme qui vient au monde est placé devant le même choix encore aujourd'hui. Dieu, par sa prescience, savait qui accepterait et qui n'accepterait pas. Si Dieu, qui est... La question m'a été posée hier par un théologien qui a assisté aux réunions ou écouté la bande. Il disait, une question. Il disait, dans ce cas-là, Dieu est-il omniprésent? Dans ce cas-là, il disait, il pourrait être partout. J'ai dit, il n'est pas omniprésent au sens propre du mot, omniprésent. Il ne peut pas être un être tout en étant omniprésent. S'il est omniprésent, pourquoi prierait-on pour recevoir le Saint-Esprit? S'il est omniprésent, il remplit chaque fente, chaque coin, chaque fissure, chaque cellule, chaque fibre et tout le reste. J'ai dit, pourquoi a-t-il cherché Moïse à la fin s'il est omniprésent? Pourquoi a-t-il parcouru le jardin d'Éden dans tous les sens en criant, « Adam, Adam, où es-tu » s'il est omniprésent? Il est omniprésent du fait qu'il est omniscient. Il sait tout parce qu'il est infini. Il est infini, c'est ce qui fait qu'il est omniprésent. Comme il est omniprésent, alors, comme il est infini, alors, il est dans les cieux, il habite dans un lieu, puisqu'il est un être. Mais, comme il est infini, alors il connaît toutes choses. Chaque fois qu'un moucheron cligne des yeux, il le sait. Il connaît chaque bourdon, où il va dans le rayon pour chercher son miel. Il connaît chaque moineau qui est perché dans l'arbre. Il connaît chaque pensée qu'il y a dans votre esprit, parce qu'il est infini et qu'il est omniscient. C'est-à-dire qu'il est non seulement infini, mais il est omniscient. Il sait tout. Seulement, il est un être. Dieu est un être. Et c'est de cet être que ces choses se sont mises à émaner. Et le péché, comme je le disais l'autre soir, le péché n'est pas une création. Rien n'a été créé si ce n'est la perfection. Toutes les choses que Dieu a créées étaient bonnes. Le péché n'est pas une création. Ils disent, « Eh bien, voilà une création même du péché. » Vous avez déjà entendu ça. Mais c'est une erreur. Le péché, il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Dieu ne pouvait pas créer le péché parce qu'il est saint. Il n'y a rien en lui qui puisse créer ça. Le péché est une perversion. Non pas une création, mais une perversion. Un adultère, c'est l'acte juste perverti. Un mensonge, c'est la vérité racontée de travers. Tout péché, c'est la justice pervertie. Par conséquent, voilà maintenant Dieu. C'est fait, il s'est manifesté comme Dieu. C'est fait, il s'est manifesté comme Sauveur. Les hommes étaient perdus et il les a sauvés. C'est fait, il s'est manifesté comme Guérisseur. Ce que les gens peuvent dire, ça ne change rien. Il l'est quand même de toute façon. Il est un Guérisseur, il est un Sauveur, il est Dieu, il est éternel. Et il a un but. Et son but, c'était au commencement de faire des créatures qui l'aimeraient et qui l'adoreraient. Alors, il a fait des créatures, et ces créatures sont tombées. Et là, Dieu, comme il est infini, il a parcouru du regard le cours du temps, et il a vu tous les hommes qui seraient sauvés. Tous les hommes, il le savait par sa prescience. Par conséquent, s'il savait par sa prescience qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé, il était donc en mesure de prédestiner. Alors, le mot n'est pas si terrible que ça, après tout, n'est-ce pas? Il était en mesure de prédestiner puisqu'il savait qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Par conséquent, pour s'approprier ceux qui allaient être sauvés, il devait fournir une offrande propitiatoire pour leurs péchés. Oh, on voudrait bien, si possible, voir ça. C'est seulement quelques versets plus loin. Il nous a prédestinés à la vie éternelle, car il savait qu'il y en aurait qui renonceraient à tout. Peu importe combien les enfants du monde considéreraient la chose avec indifférence, pour eux, ça ne changerait rien du tout, parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Et ceux-là, il les a appelés. Et il a envoyé Jésus afin que son sang serve d'expiation, de sang d'expiation, agisse comme offrande propitiatoire, ou comme acceptation, ou comme purification. Un processus de purification qui, continuellement, pas seulement une fois, à une réunion de réveil, mais il est toujours vivant pour intercéder. Ce qui fait que le chrétien reste pur jour et nuit. Il y a le sang de Jésus-Christ qui fait que nous sommes acceptés par la croix là-bas, dans la présence de Dieu, et qui nous purifie continuellement jour et nuit de tout péché. Et nous sommes gardés bien à l'abri. Gardés comment ? Par le Saint-Esprit, dans le corps du Seigneur Jésus, en sécurité. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Plus de jugement. Le chrétien n'ira jamais en jugement. Christ y est allé pour lui. Mon avocat a pris ma place. Il a plaidé ma cause, comme quoi j'étais ignorant. Il a dit au Père que je n'étais pas digne, que j'étais ignorant, mais qu'il m'aimait et qu'il avait pris ma place. Et il a plaidé ma cause, et aujourd'hui, je suis libre. Oui, monsieur, et il a versé son sang là-bas, comme offrande pour notre péché. Vous vous souvenez, mercredi soir passé, aucun chrétien Les chrétiens pêchent, mais un pécheur ne peut pas pécher. Un pécheur ne pêche pas parce qu'il est un pécheur. Il est simplement un pécheur au départ. Un point, c'est tout. Tenez, par exemple, prenons-le, le dos de ce livre. Il est noir. Dans quelle proportion est-il noir? Il est tout noir. Il n'y a aucune partie blanche dessus. Il est noir. Vous dites, cette partie-ci. Non, pas du tout. Il est tout noir, au complet. Il est tout noir. C'est comme ça qu'est un pécheur. Il est simplement condamné au départ. Eh bien, vous dites, oui, mais disons qu'il commet adultère. Disons qu'il viole une femme. Disons qu'il joue à des jeux d'argent. Disons qu'il abatte quelqu'un. Ça, ce n'est pas notre affaire. Il y a des lois chez nous pour s'occuper de ça. Nous ne sommes pas des réformateurs. Nous sommes des prédicateurs de l'Évangile. Nous ne le condamnons pas à cause de ce qu'il a fait. Nous ne le condamnons pas parce qu'il a commis adultère. Nous le condamnons parce qu'il est un pécheur. S'il était un chrétien, il ne ferait pas ça. C'est exact. S'il a été changé, il ne fera pas ça. Mais c'est parce qu'il est un pécheur qu'il fait ces choses-là. Voilà où les légalistes perdent leur point d'appui. Oui, monsieur, frère, permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce que nous sommes sauvés, et cela par le moyen de la foi. Oui, monsieur. Or là, je ne condamne pas les frères légalistes, ce sont mes frères, et ils seront là, tout autant que tous les autres y seront, parce que Dieu a prédestiné son Église à y être. Mais ce qu'il y a, c'est que vous tenez les gens dans un état de déchirement continuel, si bien qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, eh bien, peut-être que si je... Faites-leur donc savoir que tant qu'ils ont le désir des choses du monde, ils ne sont pas dans la course pour commencer. Si je suis fidèle à mon épouse, ce n'est pas parce que je pense qu'elle divorcerait avec moi. Je suis fidèle à mon épouse parce que je l'aime. C'est une position légale que nous avons prise, car nous nous aimons. D'abord, avant que cela ait pu se faire, il devait y avoir de l'amour. Je l'aime. Bien que je croie qu'elle me pardonnerait si je faisais quelque chose de mal, il reste que je ne le ferais pas quand même. Je l'aime. C'est la même chose pour Christ. Si je vivais, j'ai 50 ans, si je vivais jusqu'à 90 ou 100 ans, qu'il me restait encore 50 ans comme prédicateur, et que je ne prêche plus une seule fois, que j'aille m'asseoir au bord de la rivière, je suis sauvé de toute façon. Dieu m'a sauvé par sa grâce. Je n'ai aucun mérite. Il n'y a rien que j'aurais pu faire, que j'ai pu faire, ni rien. Je prêche parce que je l'aime et que j'aime son peuple. Et c'est ce qui me fait savoir que je suis passé de la mort à la vie, parce que je les aime et que je vais à leur recherche. Peu importe dans quel état ils peuvent être, je vais à leur recherche de toute façon. Allez les chercher de toute façon. Ramenez-les de toute façon. Que des prédicateurs ne soient pas d'accord, que les autres ne soient pas d'accord, que les dénominations ne soient pas d'accord, ça ne m'arrête pas, ça. Il y a quelque chose. Lui, ça ne l'a pas arrêté. Il est arrivé au sein même de l'incrédulité. Et ça ne l'a pas arrêté. Il a continué à avancer de toute façon. C'est ce que nous faisons. Nous allons les chercher. Nous les rattrapons de toute façon. Peu importe, tendez la main, saisissez-les, agrippez-vous à eux de toutes vos forces. Vous ne savez pas qui ils sont. Sauvez-les. C'est par amour que vous le faites. Non pas parce que je suis obligé de le faire, mais parce que j'aime, parce que vous aimez. Vous dites, il faudrait que j'aille redresser la situation avec cette femme. Mais je vais te le dire tout de suite. Je pense que, parce que je vais à l'église, il faudrait que j'aille redresser ça. Non, c'est vous qui devriez vous redresser d'abord. Voyez? Voyez, si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, quelque chose qui vous fait savoir que vous avez tort, alors allez redresser la situation avec Dieu. Ensuite, vous irez redresser la situation avec votre prochain. C'est ce que Jésus a enseigné. Il a dit, si tu viens à l'autel et qu'il y a, que tu te souviennes que tu as quelque chose contre un voisin ou contre ton frère, va d'abord redresser la situation avec lui. Maintenant, dans les âges à venir, mercredi soir, nous avons vu les manifestations. Nous en parlerons encore ce matin de la manifestation des fils de Dieu. Là, Dieu qui attend. Et ensuite, au temps de la fin, quand nous nous tiendrons tous devant lui. Les anges n'ont pas été perdus. Ils ne sauront pas apprécier les bénédictions comme nous. Ils n'ont jamais été perdus. Mais moi, je sais d'où je viens. Je sais de quelle pierre j'ai été taillé, un pécheur. Vous, vous savez à partir de quoi vous avez été taillé. Alors, une fois retrouvés là, nous pouvons nous tenir devant Dieu. Oh, quel beau jour ce sera! Ensuite, l'adoption, le placement. Maintenant, Dieu est à l'œuvre à faire ceci. Bon, si je peux vous montrer ceci, ensuite, nous allons nous y mettre. Maintenant, le verset 5, je veux le lire. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son propre bon plaisir de sa volonté. Dieu prend plaisir à faire sa volonté, à l'adoption, au placement. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il place son Église. D'abord, il a appelé son Église. Les méthodistes, les presbytériens, les luthériens, les baptistes, il les appelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit et leur a donné le baptême du Saint-Esprit. Vous, les pentecôtistes, je voudrais que vous sortiez ça de votre cœur. Pentecôte n'est pas une dénomination. La Pentecôte est une expérience. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une organisation. Vous ne pouvez pas organiser le Saint-Esprit. Il ne le permettra pas. Bon, vous avez une organisation à laquelle vous donnez ce nom-là, mais le Saint-Esprit se retire et vous laisse là, à l'endroit où vous êtes, alors que lui, il continue tout simplement à avancer. Voyez? La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience. Et donc, Dieu a donné la nouvelle naissance à ses enfants par le baptême du Saint-Esprit. Ils en sont venus tout près quand ils se sont purifiés chez les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Ensuite, ils ont fait l'expérience de la Pentecôte ou du baptême du Saint-Esprit, de la restitution des dons. Ils sont allés de l'avant en parlant en langue et en interprétant les langues. Ils ont reçu des dons de guérison et des miracles, des signes et des prodiges ont commencé à les accompagner. Maintenant, ils sont des enfants. Ils sont les enfants de Dieu. Ils ont une position en Christ. Ils sont devenus des enfants par naissance. Et la nouvelle naissance et la conversion elle-même, c'est le Saint-Esprit. Vous n'êtes même pas encore converti avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est ce qui est dit dans l'Écriture. Jésus a dit à Pierre, « Demandez à n'importe qui, lisez l'Écriture. » Il avait été justifié en croyant au Seigneur Jésus. Il était devenu un disciple, un apôtre. Jésus lui a donné les clés du royaume. Et Jean 17, 17, il les a sanctifiés. Il leur avait donné le pouvoir. Il les avait envoyés chasser les démons et tout. Il les a sanctifiés. Sanctifie-les, Père, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je me sanctifie moi-même à cause d'eux. Voilà bien une des paroles les plus douces que j'ai jamais entendues. Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Savez-vous qu'il avait le droit d'avoir un foyer? C'était un être humain. Savez-vous pourquoi il avait le droit d'avoir une épouse? C'était un homme. Il avait le droit d'avoir toutes ces choses-là. Mais il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Je me sanctifie moi-même. Hier, je parlais à un jeune prédicateur. Je vais aller prêcher à son église dans quelques soirs, là-bas, sur la route nationale. Je m'informais au sujet de quelque chose, et il m'a dit, « Oui, frère Branham, mais ceux de mon assemblée, la plupart ne croient pas à ça. » J'ai dit, « Est-ce que la plupart d'entre eux sont légalistes? » Oui, le frère, lui, ne le croit pas comme ça. Mais, il a dit, « Pour eux. » Oh, j'avais envie de lui sauter au cou. Pour eux. Voyez-vous, je me sanctifie moi-même pour eux. Oh, Jésus formait 12 hommes pour que ces 12 hommes-là puissent porter l'Évangile au monde. Et il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Faites-le pour votre voisin, pour quelqu'un d'autre. Ne faites pas de votre liberté un voile, a dit Paul, mais sanctifiez-vous, conduisez-vous dans le voisinage comme un vrai chrétien devrait se conduire. Dans vos rapports, si vous rencontrez votre ennemi, sanctifiez-vous pour lui. Vous ne savez pas ce que vous pourriez faire. Maintenant, donnez la place d'un fils. D'abord, après que le Fils était arrivé, alors il était un fils. Mais ensuite, nous avons vu que c'est sa conduite qui le mettait en position d'être adopté. C'est-à-dire, s'il se conduisait comme il faut ou pas. Et c'est le pentecôtisme. Maintenant, permettez-moi de vous démontrer que la Pentecôte n'est pas une dénomination. Combien y a-t-il de baptistes ici qui étaient baptistes et qui ont reçu le Saint-Esprit? Levez la main. Voyez? Combien y a-t-il de méthodistes ici qui ont reçu le Saint-Esprit? Levez la main. Combien y a-t-il de nazaréens ici qui ont reçu le Saint-Esprit? Levez la main. De presbytériens qui ont reçu le Saint-Esprit? Voyez? De luthériens, d'autres dénominations qui ne faisaient pas partie de la Pentecôte du tout, qui faisaient simplement partie d'une dénomination qui ont reçu le Saint-Esprit? Levez la main. Voyez? Alors, la Pentecôte n'est pas une dénomination, c'est une expérience. Donc Dieu vous a fait entrer dans le corps de Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Après que vous avez fait vos preuves, que vous vous êtes sanctifiés par votre bonne conduite, que vous obéissez au Saint-Esprit sans tenir compte de ce que le monde peut dire. Je vais frotter très fort, là, vous voyez, parce que je ne veux pas être blessant. Je vous en prie, ne vraiment, là, voyez-vous, vraiment, ne pensez pas que je suis malveillant. Je ne veux pas l'être. Ce qui me mine, c'est quand je prêche aux gens cette vérité qui a été envoyée de Dieu, et qu'ils font demi-tour et continuent à faire exactement la même chose, tout en prétendant qu'ils ont le Saint-Esprit. C'est bien simple, ça vous ravage presque, voyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ils retournent tout de suite à la même chose. Exactement comme les enfants d'Israël, ils voulaient avoir un roi pour que ce roi puisse dominer sur eux et les faire agir comme les Amoréens, les Amalécites et les Philistins. Savez-vous, mesdames, que c'est mal de porter des pantalons? Le savez-vous? Savez-vous que c'est mal de couper votre chevelure? Savez-vous, monsieur, que vous agissez mal en continuant à fumer et à vous conduire comme vous le faites? Savez-vous que vous agissez mal en n'étant pas le mari dans votre foyer? Votre femme pique une petite crise, elle vous met à la porte et vous dites « Oui, mon trésor, sois béni, je vais revenir tout de suite. » Savez-vous que vous, comment pouvez-vous vous occuper de la maison de Dieu si vous ne pouvez même pas diriger votre propre foyer? C'est tout à fait exact. Savez-vous, sœur, que votre mari est non seulement votre mari, mais il est aussi votre chef? Dieu l'a dit. En effet, le mari n'a pas été séduit, c'est la femme qui a été séduite. Et vous, les prédicateurs, qui continuez à nommer des femmes pasteurs et des femmes prédicateurs dans vos églises, alors que vous savez que la parole de Dieu le condamne. Continuellement, vous allez prendre le nom de Père, Fils et Saint-Esprit pour baptiser, alors qu'il n'y a pas la moindre écriture à l'appui dans la Bible. Je voudrais qu'un archevêque ou quelqu'un d'autre me montre un endroit où quelqu'un dans la Bible a déjà été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Je voudrais que quelqu'un me montre où quelqu'un a déjà été baptisé autrement que dans le nom de Jésus. Celui de Jean n'était pas baptisé, il s'était fait baptiser en croyant qu'il allait venir. Seulement, il ne savait pas qui il était. Mais, dès qu'ils ont vu ce qu'il en était, il a fallu qu'ils viennent se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que quelqu'un... J'ai demandé aux assemblées de Dieu, aux autres prédicateurs, aux baptistes, aux presbytériens et tout. Ils refusent d'en parler. Je voudrais voir l'Écriture. Et après, c'est moi le fanatique, hein? Après, je suis fou. J'ai perdu la raison. Je suis dingue. Rien que parce que j'essaye de vous dire la vérité. Là, je parle franchement, les frères. Si un homme se donne à Dieu, il faut vous donner au complet, de A à Z. Vous êtes mis à part. Vous êtes une créature différente. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont appelés. On a un appel dans son cœur. Oui, je crois que Dieu m'aime, je le crois. Mais frères, ça, vous serez tout aussi perdus que les autres. En effet, ils vont se présenter là, ce jour-là. Ils vont même dire, « Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait tout le reste en ton nom. J'ai fait des services de guérison. J'ai prêché l'évangile. J'ai chassé les démons. » Et Jésus dira, « File d'ici. Je ne te connais même pas, hypocrite. » C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Pourquoi est-ce que les gens ne le voient pas? Bon, je sais que c'est froissant. Et je ne fais pas exprès de vous blesser. Je ne le fais pas exprès. Mais frères, il me semble que nous sommes au temps de la fin. Et Dieu est en train d'adopter, de placer en position, dans l'Église, dans le corps de Christ, les siens. Or, il ne va pas en placer beaucoup là, je peux vous le dire tout de suite. Vous dites, « Oh, eh bien, il y en aura un si grand nombre. » Oui, mais ça fait déjà 6 000 ans qu'il les fait sortir. Souvenez-vous, la résurrection a lieu et nous sommes enlevés avec eux. Il n'y en aura que quelques-uns, voyez-vous. Voyez ce qu'il en est de votre salut. Dépêchez-vous. Examinez-vous pour voir ce qui ne va pas. Voyez, pour voir ce qu'il y a au juste. Je sais que c'est dur à entendre, mais frère, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. L'adoption. Nous devrions être tellement remplis d'ardeur pour Dieu. Nous devrions être à l'œuvre jour et nuit. Rien ne devrait nous arrêter. Et nous devrions être tellement gentils et tellement aimables et tellement bons et tellement semblables à Christ par nos vies. C'est une vie de tous les jours. Jésus a dit, « Considérez comment croît le lys des champs. Il travaille et il file. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon était revêtu de somptueux habits de soie, brodés et tout. Mais ce n'était pas de ça qu'il parlait. Pour qu'un lys puisse croître, il doit travailler la nuit comme le jour. Pourquoi est-ce que vous préférez aller vous accrocher au petit bout de la corde? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront le pécheur, c'est-à-dire l'incroyant et l'impie? L'homme qui entend la parole, mais qui refuse d'y marcher. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Voyez? Or ça, ici, c'est bon. Ici, c'est notre Église. Il y a peut-être 4 ou 5 nouveaux venus parmi nous, mais c'est l'Église. Je suis en train de vous donner un enseignement. Et c'est enregistré. Je veux que les gens qui écouteront les bandes se rappellent que ceci s'adresse à mon Église. Quand je suis en dehors, parmi les gens, là-bas, je tâche d'être assez gentleman pour leur parler de... pour suivre un peu, les dorloter un peu dans leurs petites idées de lait écrémé. Mais quand il s'agit de vraiment déclarer la vérité, déclarons-la. L'adoption, le placement en position. Où sont-ils? Montrez-moi où ils sont. Dieu, qui appelle ses enfants, les met à part par la manifestation. Ils n'ont pas besoin d'en dire un mot. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Il place son fils dans sa position. Il lui donne sa place. Exactement les mêmes choses. Il a autant d'autorité, sa parole a autant de poids que celle d'un archange, et même plus. Le Fils était adopté, placé à un endroit élevé, on le conduisait là-bas, on lui mettait un vêtement nouveau, d'une couleur nouvelle. Le Père célébrait ça par une cérémonie. Il disait, « Voici mon Fils, dorénavant c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige. Il est à la tête de tout mon héritage. » Tout ce que j'ai lui appartient. C'est exact. Ensuite, nous pourrions reprendre encore « Ella, Ella, Elohim, Elohim », voyez-vous, alors qu'il existait par lui-même, et revenir ensuite à Jéhovah qui a créé quelque chose. Il a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Qu'est-ce que nous attendons? Les manifestations. La terre soupire. Allons-y, on va le lire. bien prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, selon son bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce. Sa grâce, qu'est-ce que c'est? Il y a bien longtemps, avant, quand il n'était pas un père. Sa grâce, son amour, par lequel il a fait un enfant pour lui-même, pour que nous puissions être prédestinés à être ses enfants d'adoption à la louange de sa grâce. Voyez? Par laquelle il nous a acceptés, par son, la personne bien-aimée, qui est Christ. Il nous a acceptés, comment? Par lui. Comment entrons-nous en lui? D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour rentrer en lui. Écoutez, en lui, nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption par son sang. La rémission des P-E-C-H-E-S. Comment pouvez-vous prêcher la prédestination de Dieu qui établit d'avance et place sans qu'il y ait quelque part une expiation pour le péché? Pourquoi donc? Chaque jour vous faites une erreur. Chaque jour vous faites quelque chose de mal. Seulement, si vous êtes un homme né de nouveau ou une femme née de nouveau, aussitôt que vous faites cette erreur, Dieu sait que vous la regrettez. Vous pourriez vous tenir dans la présence du président Roosevelt ou de n'importe qui d'autre et dire « J'ai tort, que Dieu me pardonne d'avoir fait cette chose ». Pourquoi? C'est là que le sang de l'expiation, vous remarquez, c'est P-E-C-H-E-S. Un pécheur est un pécheur. Il ne commet pas de péché. Mais l'Église commet des péchés. Elle agit mal. Elle a une mauvaise pensée, une mauvaise impression. Elle fait des fautes. Elle marche d'un pas chancelant, comme un petit enfant qui marche, qui essaie d'apprendre à marcher. Il ne sait pas encore comment marcher comme il faut, parce qu'il est un petit garçon. Mais il y a une main qui descend vers nous, qui se tend vers nous. Il nous attrape et nous stabilise. Et il dit, « Fais ton pas, comme ceci, fiston. » Il ne va pas nous prendre et nous donner une fessée parce que nous avons fait une erreur. Il ne nous frappe pas à mort parce que nous essayons de marcher. Il nous aime comme nous aimons nos enfants. Un vrai, vrai papa ne donnera pas une correction à son enfant s'il tombe par terre en essayant de marcher. Il va lui tendre la main, une grande main forte. Il va le relever et il va le prendre avec ses deux mains et lui dire, « C'est comme ceci que tu dois faire, fiston. » Marche comme ceci. C'est comme ça que Dieu fait pour son Église. Il lui tend la main, il le prend dans ses bras, il le relève et dit, « Marche comme ceci, fiston. Écoute, ne le dis pas comme ça. Dis-le comme ceci. Bon, peu importe ce que l'Église dit, ce que celui-ci dit, ce que celui-là dit, toi, dis-le comme ceci. » Comme ceci, c'est ceci qu'il faut. Si ma parole le prêche, tiens-t'en strictement à elle. Marche avec elle. Tiens-t'en strictement à elle. Peu importe ce que tous les autres peuvent dire, toi, tiens-t'en strictement à elle. Marche comme ceci. C'est comme ça que tu dois faire tes pas. Nos péchés. Un amour qui a expié nos péchés. Sinon, nous n'aurions jamais eu une chance. Nous pourrions vraiment nous ancrer à ces paroles-là. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répondu abondamment. Abondamment, ça veut dire quoi? Oh là là, il a répondu abondamment. Des tas, beaucoup, a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. D'intelligence. Toute la sagesse qu'il a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse, pas celle du monde. La sagesse du monde est une folie pour lui, et la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. C'est comme le jour et la nuit, l'un ne peut pas s'entendre avec l'autre. Mais quand le soleil commence à se lever et que le jour paraît, alors la nuit se disperse dans tous les coins. De même, quand la lumière de l'Évangile commence à pénétrer, les choses du monde se mettent toutes à disparaître. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il répand abondamment la lumière du soleil sur ses enfants, qui marchent dans l'Esprit, conduits par l'Esprit de Dieu, remplis de l'abondance de sa grâce, par toute espèce d'intelligence et de sagesse, d'entendement et avec de la perspicacité pour savoir de quelle façon marcher. Si vous voyez que c'est mal, alors soyez prudent dans ce que vous faites, dans votre façon de... Si c'est mal, soyez même prudent dans votre façon de l'aborder. Prudent. Regardez-y de très près. Assurez-vous bien que vous savez comment l'aborder. Prudent comme le serpent, simple comme la colombe. C'est ce que Jésus a dit. Oh, ce sont là des pépites, mes amis. On pourrait tout simplement rester là-dessus des jours et des jours. Ce sont des choses merveilleuses, n'est-ce pas? La prudence, la sagesse qu'il a répandue abondamment sur nous, qu'il a déversée. Il ne nous en a pas donné une cuillerée, mais il a pris une grande pelle et l'en a envoyé comme ça continuellement. Il a répandu abondamment sur nous la sagesse et aussi la prudence de sa grâce. Oh, grâce infinie de notre Dieu! Donc, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. À qui parle-t-il? Aux dénominations? Je vous en prie, mes frères, ne pensez pas que je déprécie votre dénomination. Ce n'est pas ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la chose était fausse dès le départ. Jésus a dit, « Allez prêcher l'Évangile », et nous sommes allés former des dénominations. C'est pour cette raison-là que nous ne l'avons pas. Nous marchons selon la sagesse de l'homme. Si Calvin pouvait ressusciter, tiens, il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé près de la tombe d'un grand homme, d'un grand réformateur, et je songeais, quel grand homme il a été, assurément. Eh bien, c'était John Wesley. Et je me suis dit, si John Wesley pouvait sortir de cette tombe aujourd'hui et qu'il voit l'état de son Église, il aurait honte de son nom. John Wesley était un homme rempli de piété, un tison arraché, comme il le disait. John Wesley était un homme saint qui croyait en Dieu et qui le suivait pas à pas. Mais après que John est mort, ils ont dit, nous allons former une église en l'honneur de John. Nous allons former notre église et nous allons l'appeler l'église méthodiste à cause de sa méthode de la sanctification comme seconde œuvre de la grâce. Alors, ils ont formé une église. Et aujourd'hui, ces hommes d'église-là renient tout ce que John Wesley représentait. John Wesley prêchait la guérison divine. John Wesley croyait au baptême de l'Esprit. John Wesley croyait à la restitution complète des dons. John Wesley, Martin Luther et beaucoup de ces grands hommes-là parlaient en langue et interprétaient. Et aujourd'hui, si vous parliez en langue dans une église méthodiste ou dans une église luthérienne, on vous mettrait à la porte. Qu'est-ce qui se passe? En plein au temps où nous devrions placer des fils, qu'est-ce qui se passe? Ils ont adopté autre chose parce qu'ils ne connaissent pas le mystère de Dieu et ils ne le connaîtront jamais par le moyen d'un séminaire. Je vais vous lire quelque chose ici. Vous êtes d'accord? Bien, prenons donc, j'ai quelque chose de noté ici. Voyons la façon dont Paul, maintenant il s'agit ici de celui qui a enseigné ce même message. Prenons Actes 9:5 pendant un petit instant. Prévenez-moi quand je serai, cependant seul, respirant encore la menace. Oh, ce petit juif méchant et colérique au nez crochu, les meurtres contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait, je vais aller à leur recherche. Si seulement je peux les trouver, oh là là, qu'est-ce que je vais leur faire? Voyez, si seulement je peux les trouver. Mais il était prédestiné. Qu'est-ce qui vous dit que le vendeur d'alcool là-bas n'est pas prédestiné à la vie? Qu'est-ce qui vous dit que la prostituée là-bas, à qui vous ne voulez même pas adresser la parole? Qu'est-ce qui vous dit qu'une petite poignée de main et une invitation à venir à l'église ne ferait pas d'elle une sainte de Dieu là-bas dans la gloire? Quand, Qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'en est pas une? C'est ce que nous ne savons pas, mais c'est notre devoir. Comme le pêcheur qui a jeté son filet dans la mer et qui en a retiré, il en a ramené des grenouilles, des poissons, des lézards, des araignées d'eau et tout le reste. Mais il y en avait là-dedans qui étaient des poissons. Il ne savait pas. Tout ce qu'il a fait, c'est de jeter le filet. C'est ce que nous faisons. Observez Paul. Demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les lia et les amena à Jérusalem. Frère, il était vraiment impitoyable. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, un prêtre est arrivé sur la route, le docteur F.F. Jones. Et celui-ci lui dit, « Il te faut une expérience de séminaire maintenant, mon garçon. Après ça, je pense que Dieu pourrait t'utiliser. Ce serait terrible de voir un verset comme celui-là, de lire ça, vous ne trouvez pas? Bon, mais ça tient autant debout que... Je ne dis pas ça pour plaisanter. C'est ce que nous... Ça tient autant debout que ce que nous en faisons aujourd'hui. Tu sais, ta mère était une brave femme. Je crois que tu ferais un bon prédicateur. Regardez bien ce qui s'est passé. » Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière. C'est surnaturel, dès le départ. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il était tremblant et saisi d'effroi, et il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu vas faire. » Et les hommes qui l'accompagnaient continuèrent la route avec lui. Et ils trouvèrent un homme, Ananias, là-bas, qui avait eu une vision. C'est surnaturel d'un bout à l'autre. Et ce vieux Saul, cette espèce de méchant personnage, Ananias, là, avait eu une vision. Il avait vu dans sa maison. C'était un prophète. Il était dans sa maison. Il priait et il a eu une vision. Le Seigneur lui a parlé et il a dit, « Il y a un homme qui vient là-bas sur la route. Il est aveugle comme une taupe et il s'appelle Saul. C'est Saul de Tarse. » Il a dit, « Seigneur, j'ai entendu dire beaucoup de choses. Ne m'envoie pas. Je suis un petit homme. » Ne m'envoie pas après lui. Il a dit, mais voici en chemin, je lui ai montré une vision. Je lui suis apparu dans la colonne de feu. Je l'ai rendu aveugle, mais alors complètement. Il m'a fallu le rendre aveugle et le démolir avant que j'arrive à faire quelque chose de lui. Tu vois, il m'a fallu le débarrasser de toute sa théologie. Tu sais, il était un grand homme dans une des églises là-bas. Il avait toutes sortes de diplômes. Il n'avait aucun besoin de parfaire son éducation en quoi que ce soit. Mais il a dit, ce qu'il m'a fallu faire, c'est de sortir tout ça de lui. C'était ça qu'il fallait. Il ne s'agissait pas de lui donner plus de la chose, mais de la faire sortir de lui. Je trouve que c'est là le problème aujourd'hui, pour beaucoup de membres du clergé de chez nous. Il faut sortir ça de vous, pour que Dieu puisse mettre le Saint-Esprit à l'intérieur. Sortir ça. Là, il disait qu'il disait, « Seigneur, mais cet homme-là, c'est un homme terrible. » Il a dit, « Mais voici, il prie. » Maintenant, tu vas descendre telle rue, et tu vas arriver à une fontaine. Passer cette fontaine, qu'il y aura à gauche, tu vas continuer. Il y aura une maison blanche, vas-y et frappe à la porte. Il sera étendu juste là, dans le vestibule. Ils n'ont pas réussi à l'amener plus loin. Impose-lui les mains, emmène-le à la rivière de Damas, et baptise-le au nom de Jésus. En effet, je vais te dire ce que je vais faire. Il devra souffrir beaucoup pour moi, car il est mon messager à ceux des nations. Amen. Eh bien, attends une minute là, Seigneur. Mais quelle école devrais-je lui conseiller? Je vais vous dire ce que nous allons faire. Lisons dans Galates et voyons ce qu'il en est. Le chapitre juste après, un peu plus loin. Voyons dans Galates 1, en commençant au verset 10, voyons à quelle école Paul est allé, à quel séminaire, et quelles sont les mains qui lui ont été imposées, et... Oh, tout ce qui s'est passé. Galates, chapitre 1er. Pour ne pas prendre trop de temps, commençons où il est question de sa conversion, au verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Oh, my. Oh, là là, là là. Permettez-moi de dire un petit quelque chose ici, avant. Galates 1, prenez le chapitre 8. Combien savent que c'est Paul qui a exigé de ces gens-là qu'ils se fassent rebaptiser au nom de Jésus? Dans Actes 19, assurément. Prenons juste un peu plus haut, ici, le verset 8. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. D'où l'as-tu eu, cet évangile-là, Paul? Le verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez entendu, reçu, qu'il soit anathème. Que ce soit un archange, que ce soit un évêque, que ce soit un surveillant général, que ce soit le docteur untel, qui que ce soit, s'il ne prêche pas le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, s'il ne prêche pas la restitution des dons, la venue de Christ, toutes ces choses-là, qu'il soit anathème. S'il cherche à prendre une partie de la parole ici et à dire que c'était pour une autre époque et à y ajouter quelques nouvelles idées absurdes qui nous a été enseignées par un séminaire, qu'il soit anathème. Continuons à lire pour voir comment Paul l'a reçu, voir comment ce que j'essaie de vous dire ce matin. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, alors je ne serais pas serviteur de Christ. Comment puis-je m'attendre à quoi que ce soit? Comment un homme qui aime Dieu, et surtout un prédicateur, peut-il s'attendre à quoi que ce soit d'autre qu'à être haï des hommes? Les hommes vous haïront. Eh bien, il disait, Jésus a dit, si moi, le maître de la maison, il m'appelle, je suis le maître, le plus grand parmi vous tous. Je suis celui qui peut faire plus de miracles et accomplir plus de choses que vous tous, par le Saint-Esprit, parce que j'ai toute la plénitude en moi. Et s'ils m'ont appelé Belzébul, à combien plus forte raison vous appelleront-ils ainsi? Mais il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce ne sera pas vous qui parlerez, ce sera le Père qui demeure en vous, qui parlera au moment même. Tenez-vous-en simplement à la parole. Et il, quand il a eu achevé d'écrire le livre, il a dit, « Quiconque retranchera un seul mot de ce livre, ou y ajoutera un seul mot, il sera retranché du livre de vie, celui-là. » Que Dieu nous aide à nous y tenir. Maintenant, le verset suivant. Je vais lire, là, lire rapidement maintenant. « Je vous déclare, c'est-à-dire que je vous retrouverai au jugement avec ceci. » Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Bon, je ne suis ni méthodiste, ni baptiste, ni presbytérien, ni pentecôtiste. Ce n'était pas de l'homme, ni car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Je ne l'ai jamais reçu d'un homme, d'aucun séminaire, d'aucun docteur, d'aucun théologien, d'aucune maison d'enseignement. Je ne l'ai jamais reçu comme ça, je ne l'ai jamais enseigné comme ça, je ne l'ai jamais trouvé comme ça, il ne m'est jamais venu comme ça. Alors, comment est-il venu, Paul? Ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Quand Christ s'est révélé à moi, m'a révélé qu'il était le Fils de Dieu. Quand cette colonne de feu est descendue sur moi ce jour-là, j'ai dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il a dit, « Je suis Jésus. » Maintenant, je vais vous montrer ce qui lui est arrivé. À l'heure actuelle, là, si un homme recevait une expérience, il voudrait lui faire apprendre le grec pendant 10 ans, puis lui faire apprendre autre chose pendant 10 autres années. Et après tout ça, il serait fini. Regardez. Ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. J'étais un grand docteur. Oh là là, j'avais tout ce qu'il fallait. Il avait été l'élève de Gamaliel, le plus grand docteur qu'il y avait dans le pays. Combien savent que Gamaliel était l'un des plus éminents docteurs? Oui, monsieur. Ma religion judaïque, oh là là, je la connaissais par cœur. Je savais tout ça, réciter le credo des apôtres et toutes ces choses-là, vous voyez. Je savais réciter toutes les prières du matin et bénir les gens, voyez. Comment je persécutais alors à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Comment j'essayais d'arrêter cette bande d'exaltés. Voyez. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. J'étais un homme important. Oh là là, vraiment, j'étais avancé. Je leur ai montré que je pouvais les écraser, car j'ai tué Étienne et j'ai fait tout un tas d'autres choses. Vous voyez ce que moi j'ai fait? Comment ils persécutaient à outrance. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de leur père. Maintenant, souvenez-vous, pas pour la parole de Dieu, mais pour la tradition de leur père, la tradition de l'Église, autrement dit. J'imagine que j'étais méthodiste jusqu'à la moelle, que j'étais baptiste jusqu'à la moelle, que j'étais pentecôtiste jusqu'à la moelle. Ah oui? Moi, je veux être Dieu jusqu'à la moelle. Oui, c'est ça. Voyez? Bien. Tradition de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui... Oh, Paul, tu y viens là, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'avait même fait naître dans ce monde, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. Comment ça? Le Saint-Esprit en moi. Il plut à Dieu de me prendre, lui qui m'avait mis à part dès le sein, et de me donner le Fils, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sous la forme de l'Esprit en moi, pour qu'il se révèle en moi. Oh là là! Je crois que j'ai envie de crier un peu. Regardez, je vais vous dire, frère. Lorsqu'il plut à Dieu. Oh, alléluia! Lorsqu'il plut à Dieu, un père ivrogne, une mère, que Dieu te bénisse, maman. Je ne dis pas de mal de toi là. Mais une mère qui ne connaissait pas plus Dieu qu'un lapin ne saurait ce que c'est que des raquettes à neige. Et un père qui se retrouvait étendu, ivre, dans la rue. Et je n'avais même pas de chaussures pour aller à l'école. De longs cheveux qui me recouvraient la nuque. Et tout le monde ici, en Indiana, me détestait parce que je venais du Kentucky. Et comme... Oh, comme c'était dégoûtant à voir. Mais il plut à Dieu. Amen. Il plut à Dieu. Qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son Fils, en faisant de moi un ministre de la parole, qui s'en tiendrait strictement à elle, par lequel il montrerait des visions, des signes, des prodiges et des miracles. Et, oh là là, vous voyez ce qu'il était en train de dire? Il plut à Dieu de faire ça. Comment? Écoutez bien. Prenez le verset 16 maintenant. De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais point l'Église. Je ne suis pas du tout allé voir un évêque pour lui demander quoi faire. Je n'ai pas du tout consulté ni la chair et le sang, ni aucune organisation, ni rien d'autre. Je n'ai absolument rien eu à voir avec eux. Je n'ai pas du tout consulté ni la chair ni le sang. Je ne suis pas monté à Jérusalem non plus, vers tous les grands et saints sacrificateurs et les saints pères et tout cela, pour leur dire, « Maintenant, savez-vous, j'ai une vision. Que dois-je faire à ce sujet ?»« J'ai vu en vision le Seigneur Jésus béni. » Ils auraient dit, « File d'ici, toi. Qu'est-ce qui... Espèce d'exalté. Voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Non, tous leurs diplômes, je les avais déjà. Il m'a fallu, et Paul a dit ici, je peux vous le montrer dans l'Écriture, il a dit qu'il lui a fallu oublier toutes les choses qu'il avait apprises et les considérer comme sans valeur pour pouvoir connaître Christ. Oh, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Et 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Et en continuant à lire, nous voyons que lui et l'apôtre Pierre ne s'étaient encore jamais vus auparavant. Ils n'avaient jamais fait connaissance. Ils ne s'étaient jamais vus, mais quand ils se sont rencontrés, ils prêchaient le même évangile. Dieu a une école. Voyez? Oui. Ici, il y avait Pierre, qui était là le jour de la Pentecôte, disant, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Philippe a dit, « Oh, comme c'est glorieux, moi aussi je dois faire quelque chose. Oh, j'ai reçu un appel à aller en Samarie. » Il y est allé et il s'est mis à témoigner dans la rue. Tout à coup, une personne malade est arrivée. Il lui a imposé les mains et la voilà qui se met à sauter et à bondir. Il dit, « Gloire à Dieu, ça y est !» Il s'est mis à avoir une réunion glorieuse. Il a dit, « Il vous faut tous le Saint-Esprit. » Il a dit, « Ce que vous devez faire, c'est d'être baptisés au nom de Jésus. » Alors, il les a tous emmenés là-bas et les a tous baptisés au nom de Jésus. Il a dit, « Viens, Pierre, impose-leur les mains maintenant. » Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Pierre, là-bas, dans la maison de Corneille, même chose. Paul ne l'avait même jamais vu et il n'avait jamais entendu parler de lui. Mais il a traversé les contrées supérieures d'Éphèse et il y a rencontré quelques disciples. Il a rencontré un prédicateur baptiste. C'est bien ce qu'il était, Apollos, un homme de loi qui s'était converti. Un homme intelligent, brillant, qui se servait de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus était le Fils de Dieu. Oui, monsieur, c'était un homme intelligent. Ils jubilaient, ils étaient dans la joie. La Bible dit, lisez les chapitres 18 et 19 des Actes, et vous verrez que c'est bien vrai. Ils étaient dans la joie, ils dansaient dans l'esprit, ils couraient partout, vous savez. Paul a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et vous, les frères baptistes, qui essayez de faire avaler ça aux gens, de leur dire que le texte grec original dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis où, quand vous avez cru ?» Je vous mets au défi de m'apporter le texte grec. J'ai le texte grec original en ma possession. J'ai aussi l'araméen et l'hébreu. Dans chacun d'eux, il est dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par votre foi en Dieu. Le sang vous garde pur du péché, parce qu'il agit comme sacrifice. Le sang ne vous sauve pas. Le sang vous garde pur. Vous êtes sauvés comment, dites-vous? C'est par la foi que vous êtes sauvés, et ce, par la prescience de Dieu qui vous a appelé. Vous êtes sauvés, et le sang fait l'expiation. Il vous garde continuellement pur. Et puis, d'un seul esprit, vous êtes baptisés pour rentrer dans le Saint-Esprit, dans la communion avec les croyants, et dans la communion avec le Saint-Esprit, afin d'être conduits par l'Esprit, accomplissant des signes, des prodiges. Attendant, continuons à avancer, attendant quelque chose. On va voir ça dans un petit instant, je l'espère en tout cas. C'est à cette heure-ci que je t'avais demandé de me faire signe, n'est-ce pas? Je viens justement de regarder l'heure. Juste un mot ou deux de plus. Il y en a encore un peu plus. Combien de temps dure-t-il, ce salut? Combien de temps? Quel genre de salut est-ce? D'une église à l'autre? Prenons Hébreux 9, 11, une minute. On va juste aller voir combien de temps. Prendre seulement quelques minutes. Prenez l'Épître aux Hébreux et on va voir combien de temps au juste il dure, ce salut. Voir de quel genre de salut il s'agit. Lisons maintenant Hébreux 9, 11. Mais Christ est devenu souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire, or ici c'est encore Paul qui enseigne, voyez-vous, qui n'est pas de la création, cette création. Et il est entré une fois pour toutes, combien de fois? Une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu le salut pour une semaine, le salut jusqu'au prochain réveil. Quel genre? Une rédemption éternelle. Le mot éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Christ, après que j'ai cru. Nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a trois catégories de gens, les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Mais ceux qui ont cru jusqu'à recevoir la vie éternelle, ils sont entrés dans les parvis. Prenez l'ancien tabernacle. Quelle était la première chose qu'ils faisaient? Ils entraient dans les parvis, ceux des nations. Ensuite, il y avait l'autel d'airain, où on lavait le sacrifice à la cuve d'or. Ensuite, on tuait le sacrifice et on faisait l'aspersion du sang sur l'autel. Et puis, une fois chaque année, Aaron, oint, de quoi? du parfum de la rose de Saron, d'une huile précieuse composée de parfums. On la versait sur sa tête et elle descendait jusqu'au bord de son vêtement. Regardez bien, une fois chaque année, cet homme devait aller au-dedans du voile, là, en portant devant lui le sang pour le propitiatoire. Une année, il était entré avec son bâton et il l'avait oublié là. Quand ils sont retournés le chercher, il avait déjà poussé des boutons et produit des fleurs. Un vieux bâton qu'il avait eu avec lui dans le désert pendant peut-être 40 ans. Il est resté là dans le lieu saint. Regardez bien, quand ils apportaient le sang de l'Alliance, le sang, il fallait être oint. Et ils portaient des vêtements avec des petites clochettes, une grenade et une clochette. Et cet homme devait marcher de manière à ce que chaque fois qu'il déplaçait la jambe, qu'il se déplaçait comme ceci pour faire un pas, elle faisait de la musique. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Écoutez ceci, Branham Tabernacle. Vous avez eu votre chance. Une fois qu'un homme a été oint du Saint-Esprit pour être adopté dans la famille de Dieu, pour être placé dans sa position par le Père et établi à son service ici, avec un but à atteindre dans cette vie, ou ce à quoi Dieu l'a appelé, sa marche doit être « Saint, saint, saint est l'Éternel ». Saint, saint, saint. Oh, tu dois te détourner de ce côté-ci et... Saint, saint, saint est l'Éternel. Oh, tu dois croire tout ce que l'Ancien a dit, ceci. Mais saint, saint, saint est l'Éternel. Que sa parole passe avant, qu'elle soit tout pour vous. Enfoui, bien établi dans votre cœur. Votre marche doit se faire dans la parole. Saint, saint, saint est l'Éternel. Oh, si tu acceptais seulement de venir ici, je vais te dire ce qu'on va faire. On va organiser, te prendre dans notre organisation. Tu seras un homme important. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. Vous continuez à avancer. Ce que les gens peuvent dire, ça ne change rien. Retire ces bandes. Fais ceci, fais ça, autre chose. Saint, saint, saint est l'Éternel. Vous avez les yeux fixés sur le calvaire et rien ne vous arrêtera. La façon même dont vous marchez, votre vie, vous marchez sur le chemin du roi. Loin de la précieuse huile de l'onction, vous vous avancez dans le lieu très saint. Amen. Bien. Paul a dit qu'il n'avait pas reçu ceci d'un homme. Or, qu'est-ce qu'il dit? On en revient à Galates, à notre leçon. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté. Sa volonté, qu'est-ce que c'est? Fait connaître les mystères de sa volonté. Pour vous qui notez, c'est le verset 9. Là, je vais vraiment me dépêcher d'exprimer ça, parce qu'il se fait tard. Oh, chaque parole est tellement... Oh, chaque parole est une pépite. Vous pouvez tout simplement la prendre et continuer comme ça à la polir. Vous pouvez creuser, je peux... Vous pouvez prendre une seule parole de là, vous reporter à la Genèse et la polir. Vous reporter à l'Exode et la polir encore. Vous pouvez vous reporter au Lévitique et la polir encore. Et quand vous arrivez à l'Apocalypse, tout cela, c'est Jésus. Amen. Vous pouvez la polir autant que vous voudrez, ce sera Jésus quand vous arriverez à l'Apocalypse. En effet, il a dit, « Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile du matin. Je suis Alpha, Omega, c'est-à-dire A et Z dans l'alphabet grec. Je suis de A à Z. Je suis le tout en tout. C'est exact. Je suis celui qui était vivant et qui était mort, et qui est vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oh là là, chaque pépite que vous ramassez ici et que vous vous mettez à polir, en la polissant, vous y retrouverez Jésus. Bon, on va prendre encore un peu de temps et après on va s'arrêter. Oui. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi êtes-vous ici à la réunion? Quel en est le but? Après quoi le monde soupire-t-il? Pourquoi la bombe atomique est-elle suspendue là-bas? Pourquoi les molécules et les atomes? Et oh, de quoi s'agit-il? Prenez Romains chapitre 8, juste un instant. Qu'est-ce que tout cela attend? Qu'est-ce que toutes ces choses attendent? Quelle heure est-il? Romains chapitre 8, et commençons à lire vers le, oh, je dirais le 18... Commençons vers le 19e verset, et on va simplement le lire ici pour que ce soit très doux. C'est ça. Je sais à quoi vous voulez en venir, là. Bien. Romains, chapitre 8, je crois que c'est bien ça, là. Oui, monsieur. Le chapitre 8, et commençons ici vers le verset 18. Commençons donc au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est exact. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Oh, je me demande si je pourrais tenir le coup. Oh, si je peux seulement tenir le coup, là. Tenir le coup? Pas du tout. La question n'est pas de savoir si j'ai tenu le coup, mais si lui a tenu le coup. Je suis en lui maintenant, voyez-vous? Eh bien, vous dites, eh bien, si je suis en lui, maintenant vous les presbytériens, vous dites, ah ça, nous l'avons toujours cru, mais votre vie prouve que vous ne l'êtes pas. Si vous ne menez pas le genre de vie que lui a mené, si vous ne croyez pas le même évangile que lui a prêché, vous dites, ah, les baptistes disent, bien sûr que je crois à la sécurité éternelle. Et vous sortez, et vous fumez le cigare, et vous allez danser. Et les femmes se coupent les cheveux, se maquillent et se conduisent comme je ne sais quoi? Vos fruits prouvent que vous n'y croyez pas. Quand je dis, croyez-vous à la guérison divine? Oh, le docteur Jones a dit que c'était comme ça, que c'était pour une époque passée. Ah, espèce d'hypocrite, qu'est-ce que vous avez? Pauvre enfant illusionné, vous êtes tellement loin de l'évangile que ça en fait pitié. On vous a entraîné vers une route boueuse, vers un dépotoir qui brûle. Ne voyez-vous pas ce qu'il a dit ici? Que tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair en ce moment même est d'un mauvais esprit. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a dit à l'époque, il l'est maintenant. Il est comme ça pour toujours. Écoutez bien. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit après que vous avez été adopté, là, d'accord, après que vous avez été adopté, que vous avez été placé, à ce moment-là, vous comprenez, après que la cérémonie a été prononcée et que vous avez été placé correctement dans le corps. Vous êtes un fils, bien sûr, une fille, quand vous êtes né de nouveau. Vous l'êtes, ça, c'est votre naissance. Mais maintenant, vous êtes placé dans votre position. Nous n'avons point reçu un esprit de crainte, mais nous avons reçu un esprit. Nous avons reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père, ce qui veut dire, mon Dieu, bien. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment le fait-il? Vous dites, gloire à Dieu, alléluia, ça ne me dérange pas, je suis un enfant de Dieu. Alors vous sortez faire les choses que vous faites? L'Esprit de Dieu fera les œuvres de Dieu. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez? Voyez? Si ce cep, en poussant, il a donné une grappe de raisin, et que celui qui a poussé à côté, lui, il a donné des citrouilles, il y a quelque chose qui cloche. Voyez, c'est une église qui a été rattachée. C'est un cep qui a été rattaché. C'est une personne qui a été greffée. Si une personne fait partie d'une dénomination, qu'elle est membre d'une dénomination et qu'elle se dit chrétienne, mais qu'elle n'a pas le Saint-Esprit et qu'elle n'a pas la puissance de Dieu et toutes ces choses, maintenant, si vous sortez là et que vous vous conduisez comme cette bande de gens qui étaient ivres pour la simple raison que vous avez parlé en langue, j'ai vu des démons parler en langue. Oui, monsieur. J'en ai vu danser dans l'esprit et pousser des cris et avoir l'écume aux lèvres et tout le reste et tout ça. J'ai vu ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si aussi nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que la souffrance, écoutez bien ceci, oh, c'est vraiment beau ça. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, en nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Il y a un renvoi ici, il y a un petit mot là, une petite note en marge, c'est « création » qui est le bon mot, selon le grec. La création attend-elle avec un ardent désir? La création attend les manifestations des fils de Dieu. Tout est dans l'attente de quoi? Qu'est-ce que toute la création attend? Les manifestations des fils de Dieu. Elle attend que l'Église prenne sa position. Qui était le fils de Dieu quand Adam? Où était son empire? La terre. Il avait son empire sur la terre, pas vrai? Il n'était pas Ella, Elohim à ce moment-là. Il était Jéhovah, voyez? C'est-à-dire, je suis Dieu, et j'en ai créé des plus petits qui me sont assujettis. Et je leur ai donné autorité. Et leur empire, ce sur quoi ils ont autorité, c'est sur la terre. L'homme avait autorité sur la terre. Et la création tout entière attend que les fils de Dieu soient manifestés. Nous attendons la venue du millénium, jour béni, où notre Seigneur viendra chercher son épouse qui l'attend. Oh, la terre crie, soupire après ce jour de délivrance, où notre Sauveur reviendra sur la terre. Pas vrai? Dans l'attente. Dieu qui essaie de placer son Église dans sa position pour qu'il puisse se manifester. Il s'en approprie un à travers lequel il peut agir, comme ceci. Il dit, « Il y a mon esprit qui circule librement là. Le voilà, 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 je peux agir. Tiens, prends-en un autre ici et place celui-là. Celui-là, je peux le placer. » L'adoption, le placement, la manifestation, l'amener ici et lui faire une cérémonie, le visiter par un ange, lui dire quelque chose. Mais s'il a dit la vérité, mais s'il est seulement en train d'inventer quelque chose, ça ne marchera pas. Non, non, ça ne marchera pas. De ça, on en a eu beaucoup. Mais je parle des manifestations des fils de Dieu. Quand Dieu se manifeste et qu'il l'envoie, et à ce moment-là, il va de l'avant. Et ce qu'il dit est la vérité. Ce qu'il fait est la vérité. Ce qu'il fait, il manifeste Christ. Comment jugez-vous? À la façon dont il s'en tient à la parole, strictement à la parole. Voyez-vous? C'est à cela que vous reconnaissez tout homme, à la façon dont il s'en tient à la parole. S'il ne parle pas selon la parole, il n'y a pas de vie en eux, dit la Bible. Voyez? Laissez-les. Maintenant, lisons. Ensuite, on va devoir s'arrêter parce que le temps file. Très bien. Le verset 10, ou plutôt le verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté de nous adopter selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il avait formé lui-même ce dessein avant la fondation du monde. Combien le comprennent? Voyez? Pour le mettre à exécution lorsque... Oh là là, voilà encore autre chose. Ah, oh, ne nous arrêtons pas cette fois, voyez-vous. Lorsque les temps seraient accomplis, croyez-vous aux dispensations? La Bible dit, dans la dispensation de la plénitude du temps. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation de... Eh bien, il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption, ce que le monde attend, ce après quoi il soupire. Et lorsque les temps seront accomplis, dans la dispensation de la plénitude du temps, cette plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? C'est quand les morts ressuscitent. Quand la maladie cesse, quand toute la terre cesse de soupirer, la plénitude de la dispensation du temps. Regardez bien ceci. Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Êtes-vous pas heureux? Comment va-t-il le faire? Il va réunir toutes choses en qui? Comment entrez-vous en Christ? D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Et ce corps est le corps de qui? déjà jugé. Il a pris notre jugement. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et chaque fois qu'il le regarde, le corps est là. Il est assis, tout sanglant. Et moi, je suis dans ce corps. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Il passe par-dessus. Oh là là! Et dans la plénitude de la dispensation du temps, afin de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux. Maintenant, si vous voulez parler d'un nom, allons-y tout de suite. On va en parler pendant un moment. Toute la famille dans le ciel se nomme comment? Toute la famille sur la terre se nomme comment? Il y a des femmes très bien ici, vraiment bien, de grande valeur, une vraie, des vraies dames. Il y a une seule, Madame Branham, Madame William Branham, c'est mon épouse. C'est elle qui rentre à la maison avec moi. Voyez-vous, toutes les autres, vous rentrez avec vos maris. Il n'y a qu'une glorieuse église vivante du Dieu vivant. Elle porte son nom, elle est remplie de son esprit. C'est exact. Je ne dis pas, je ne condamne pas les bonnes œuvres, je ne condamne pas leurs hôpitaux et les bonnes choses qu'ils font. Je trouve que c'est merveilleux, que ce sont des bénédictions de Dieu envers cette pauvre humanité souffrante. Je ne condamne pas toutes ces autres choses qu'ils font. C'est bien, c'est tout à fait ce qu'il faut. Et leurs grandes organisations et les millions de dollars, bien sûr, je préfère de beaucoup voir ça plutôt que des bars au coin de la rue. Certainement que j'honore ces hommes en tant que prédicateurs qui se tiennent en chair. Mais pour ce qui est de réunir toutes choses à la fin de la dispensation, pour ça, il faudra attendre la manifestation des fils de Dieu dans cette dispensation, alors qu'il réunira tous ceux qui auront été amenés en Christ. Qu'est-ce que Christ? Combien? Comment entrons-nous en lui? 1 Corinthiens 12, d'un seul esprit nous sommes tous baptisés pour former un seul corps, qui est le corps de Christ, et nous avons part à tous les dons et à toutes les bonnes choses qu'il possède, pas vrai? Et toute la terre soupire, gémit, elle attend les manifestations. Le moment où Christ et son Église s'uniront, lorsque les temps seraient accomplis de réunir tout en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui, nous sommes devenus héritiers. Oh, frère Neville, pardonne-moi de prendre tout ce temps. Ce mot, héritage, oh, c'est inévitable. Oh, je sais qu'il, c'est mon parent, mon frère. J'espère que je ne suis pas fou. Je ne le pense pas. Mais, oh là là, un quoi? Un héritage. Nous avons obtenu un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose. Un nom écrit dans le livre, afin que, lorsque l'agneau serait immolé, vous soyez identifiés avec lui. Oh, retenons ça jusqu'à ce soir. Continuons à lire encore un petit peu. Oh là 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 là, comment allons-nous arriver au verset 3 ce soir, ou au chapitre 3? Nous n'avons même pas vu 4 ou 5 versets de celui-ci. Bon, mais nous allons quand même terminer, là. Il va falloir que je me contente de lire, sans plus. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été... Quoi? Comment le recevons-nous, cet héritage-là? Comment l'avons-nous reçu? Parce que nous avons marché droit? Comment avons-nous reçu cet héritage-là? Parce que nous étions prédestinés. Amen. Mes frères arméniens, je sais que c'est vraiment dur à entendre. Mon but n'est pas de vous blesser, mais ça me fait tellement de bien de savoir que... Vous l'avez, frère. Oui, vous l'avez, mais vous ne le voyez pas, c'est tout. Vous l'avez quand même. Voyez, tout va bien pour vous. Voyez, tout va bien. Voyez. Mais c'est tellement bon d'y plonger le regard. Oui, c'est comme ce que frère Neville disait une fois au sujet de la fête foraine. Trouvez-vous un escabeau et faites le tour pour voir ce que vous avez. Oui, monsieur, c'est à ça que ressemble ceci. Le Saint-Esprit de Dieu est notre escabeau. Il nous dit ce que nous avons. Voyez, vous voyez, un héritage. Oh là là. Ayant été, quel genre d'héritage? Ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Quand il était, avant qu'il soit un papa, avant qu'il soit Dieu, avant qu'il soit un sauveur, avant qu'il soit un guérisseur, avant tout ceci, il a prédestiné. Il a mis le nom de l'agneau dans le livre. Il a parcouru du regard le cours du temps par sa prescience, et il a vu votre nom, et l'a aussi mis dans le livre. Qu'est-ce? Alors, au bout d'un certain temps, nous venons au monde, nous naissons de parents pécheurs, nous nous promenons sur cette terre, vous savez. Tout à coup, comme pour ce petit juif au nez crochu, Paul, vous savez, qui s'acquittait de sa tâche. Tout à coup, il y a quelque chose qui dit, hé, vous dites, oh, Abba, Père. Et voilà que nous nous sommes mis à venir, vous voyez? Il nous a prédestinés à recevoir en lui notre héritage, qui nous avait été prédestiné, vous voyez? Nous avons hérité de cela avant la fondation du monde, voyez? Oh, selon sa propre résolution, afin d'accomplir son bon vouloir, exactement, d'être un Dieu et un sauveur. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Et qui est la vérité? Jésus est la vérité de l'Évangile. Quel Évangile? Il n'y a qu'un Évangile. Dans Galates 1, il est dit que un ange annoncerait un autre Évangile, qu'il soit anathème. Ceci est l'Évangile, de votre salut. Aucun autre, il n'y en a aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel vous deviez être sauvés. Que le nom de qui? Oh là là! En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Oh, après avoir cru, comment pouvons-nous nous contenter de voir ça en vitesse, frère? Retenons donc ça jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que vous en dites? Oh là là, je ne peux tout simplement pas aller plus loin. Retenons ça jusqu'à ce soir. Je n'arrive simplement pas à me défaire de ce mot scellé, la façon dont on y entre, vous voyez? Un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Il faut que quelqu'un m'ait laissé un héritage. Eh bien, vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Pardon, Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. Il est seulement descendu payer le prix de votre héritage. Il vous a transmis votre héritage. Mais votre nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Votre héritage était là, d'abord. Jésus est seulement venu. Beaucoup, voici de quelle façon il cherche à l'expliquer. Dieu qui dit, « Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Il n'y en aura pas un seul de sauvé. Alors, je vais faire descendre Jésus et peut-être que lui, que quelqu'un regrettera, qu'il saura ce que j'ai fait et qu'il sera sauvé. Oh, miséricorde, je ne gérerai même pas mon bureau comme ça. Et il y a des fois où je le gère vraiment mal pourtant. Voyez, je ne ferai pas comme ça. Et Dieu alors? Dieu, par sa prescience, il a vu précisément qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Il a envoyé Jésus sauver ceux qu'il avait déjà élus. Paul n'a-t-il pas dit, 5 versets plus haut, qu'il nous avait élus en lui avant même que le monde existe? C'est ça notre héritage. Dieu nous a élus et il a envoyé Jésus payer le prix. Pour que quoi? Il a versé son sang pour qu'aucun péché ne nous soit imputé. Rien de ce que vous faites. Mais si vous, pour celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Bon, et là, vous allez m'arriver avec une autre question. Et ça alors, frère Branham? Mais souvenez-vous, voyez, qui ont reçu la connaissance de la vérité. Ils n'ont jamais reçu la vérité, ils en ont seulement reçu la connaissance. Voyez, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la puissance de la bonne parole. C'est comme ces croyants frontaliers là-bas. Tellement de gens m'ont écrit à ce sujet-là. Ces croyants frontaliers, ils sont allés jusque-là. Josué et Caleb se sont rendus là-bas. Pourquoi? Maintenant, nous allons appeler ça le Saint-Esprit, le pays là-bas. Eux, ils sont ici, ou ici en avant. Disons que ceci, c'est le Saint-Esprit, et eux, ils sont là-bas, vous voyez. C'est là que la promesse est, elle est là. Eh bien, s'ils envoyaient 10 espions, un de chaque tribu, Comme ça, nous, les tribus, nous pourrions toutes savoir ce qu'est notre héritage, où tous seront placés là-bas, où nous serons placés. Alors je vais envoyer des espions. Ils sont tous arrivés là-bas. Oh là là, non, on se ferait traiter d'exalté après ça. Non, 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 on ne peut pas faire ça, voyez. Josué et Caleb se sont dit, je vais voir de quoi ça allait. Alors ils sont venus de ce côté, et ils ont regardé ce qui se passait chez ces gens-là. Oh, ils ont tendu le bras, et ils ont coupé une grosse grappe de raisin de là-bas. Et ils sont retournés. Ils ont dit, « Oh là là, c'est beau, c'est très beau. Voici, prenez-en. Ils sont vraiment bons. Oh, c'est bon, mais, oh, regardez donc ces grands. Oh, on ne pourra pas y arriver. S'opposer à toutes ces grandes dénominations, à toutes ces grandes choses. Oh, c'est vraiment dommage. On ne peut pas y arriver. Non, monsieur. Peu importe qui, on n'y arrivera pas. Non, monsieur. » Et ils se sont mis à dire, « Oh, retournons au pot de viande de l'Égypte. On aurait mieux fait de rester là-bas. On ne peut pas y arriver. Ce chemin est trop étroit. On sait qu'on ne peut pas faire ceci, qu'on ne peut pas faire cela. » Le brave Caleb a dit, « Restez tranquilles tous. » Jésus a dit, « Taisez-vous tous. Laissez-moi parler. Oh, hélas, hélas, hélas. On ne peut pas y arriver. Oh, on ne pourrait pas. Mais s'il faut que je renonce à mes parties de cartes, frère Branham, s'il faut que je laisse pousser mes cheveux comme une vieille femme, je ne sais vraiment pas ce que je ferai. S'il faut que j'enlève mes petits shorts, je ne pourrai vraiment pas, vous savez. Et s'il faut que je cesse de fumer le cigare, s'il faut que je fasse ça. » Pauvre spécimen de délivrance que vous êtes. Oui, je ne peux vraiment pas. Jésus a dit, « Oh, c'est beau là-bas, alléluia, nous pouvons nous en emparer. » Comment ça? Ceux-là, ils regardaient les grandes villes qui étaient fortifiées. Alors que Jésus et Caleb regardaient une promesse que Dieu avait faite. Tenez-vous à la parole, qui que vous soyez. Tenez-vous à la parole. Car Pierre a dit, « Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, car la promesse est pour vous. » Quel pays promis? Pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ne vous vexez pas là, je vous en prie. Et je termine avec ceci, voyez? Vous, les pèlerins de la sainteté, et les Nazaréens, vous êtes venus jusque dans la sanctification. Vous vous êtes avancés jusqu'ici même, jusqu'au point où vous voyez les raisins. Puis vous avez fait demi-tour. Vous êtes retournés. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est ça le problème. Vous n'êtes jamais entrés dans le pays. Montrez-moi un seul Nazaréen ou un seul pèlerin de la sainteté ou un seul de ceux qu'ils ont sur le terrain aujourd'hui qui a de grandes campagnes de guérison avec des signes et des prodiges qui s'accomplissent. Montrez-moi un seul. Vous vous êtes adapté à l'Égypte. Vous êtes retourné au pot d'ail. Vous vous êtes arrêté à Kadesh Barnéa. C'est exact. Regardez bien, et je vais vous montrer dans quelle position vous vous trouvez. Dans Hébreux, chapitre 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, vous saviez à quoi vous en tenir. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Voyez? Qui ont eu part et qui ont goûté les dons célestes. Goûtez, vous voyez? Les gens vont à l'église, ils sont assis là et ils disent, vous savez, il se pourrait qu'ils aient raison. Il se pourrait que ce soit vrai. Ça se pourrait, tout de même. Mais je vais vous dire, oh, il faut avoir beaucoup de foi pour faire ça. Goûtez les dons célestes et tenez pour profane le sang de l'Alliance par lequel vous aviez été sanctifié. Par exemple, un prédicateur, sa mère l'envoie quelque part, il dit, « Je me sens appelé à devenir serviteur du Seigneur. » Très bien, la première chose à faire, je vais me mettre à faire des lessives, mon chéri, et je vais t'envoyer étudier. La pire chose qu'elle ait jamais faite, c'est exact. Ils vont faire sortir de lui tout ce que Dieu essaye de mettre en lui. Ensuite, maintenant, regardez bien. Car si nous péchons volontairement, que nous péchions volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, la connaissance, l'avoir vu dans l'Écriture et savoir que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. De voir cela, c'est la connaissance de la vérité. De le voir et que nous nous détournions et tenions pour profane le sang de l'Alliance. Un homme qui dit, « Oh oui, je crois en Dieu. » Très bien, vous faites le premier pas. Bien sûr, je crois à la sanctification. D'accord, vous êtes à la frontière, vous êtes venu jusqu'ici, vous êtes prêt à recevoir le Saint-Esprit. Mais vous regardez et vous dites, « Ça, je ne suis vraiment pas sûr. » S'il faut que je me conduise comme... Non, je ne suis vraiment pas sûr. Vous savez comment ils appellent ces gens-là? Je ne sais pas si je pourrais faire ça ou pas. Non, je crois que je vais simplement aller adhérer à... Voyez. Et savez-vous ce qui arrive? Il a dit, il est impossible que ceux-là y entrent un jour. Par leur péché, ils ont laissé passer leur jour de grâce. La Bible le dit. Je sais que c'est dur à entendre, mais la Bible dit, ont goûté les dons célestes et ont tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel. Ils disent, je crois à la sanctification, à une bonne vie propre, sainte. Bien sûr, mais vous, quand vous avez vu le baptême du Saint-Esprit, le baptême et toutes ces autres choses qu'il y a dans la Bible, et qu'ensuite vous avez fait quoi? Que vous avez tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel vous avez été sanctifié. Voyons, mais qu'est-ce qui vous a fait monter jusque-là, l'ami? Qu'est-ce qui vous a gardé, empêché d'être un vil pécheur? Qu'est-ce qui a retiré le péché de votre vie? La cigarette, l'alcool, les femmes, retiré de votre vie les choses qui ne devaient pas y être. Qu'est-ce qui a fait ça? Le sang de l'Alliance. Ensuite, vous êtes venu assez près pour goûter les raisins de l'autre pays et vous avez honte de l'Évangile? Vous craignez votre dénomination? Que Dieu ait miséricorde! Oui, monsieur, tenu pour profane le sang de l'Alliance et outragé les œuvres de la grâce. Il est impossible que celui-là entre un jour dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous pose la question. Or, moi, je suis un typologue. Et tout homme qui connaît la Bible est un typologue. Est-ce qu'un seul de ces hommes-là est entré dans le pays promis? Pas un seul. Qui l'a fait? Qui est entré? Ceux qui sont allés les premiers et qui sont revenus en disant, « Nous pouvons nous en emparer, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, parce que Dieu l'a dit. » Pierre a dit le jour de la Pentecôte que si je me repentais, que j'étais baptisé au nom de Jésus-Christ, je recevrais le Saint-Esprit, que la promesse est pour moi. Je suis prêt à le faire. Elle m'appartient. La promesse m'appartient. Vous saisissez? Maintenant, la promesse m'appartient. Je la reçois. Elle m'appartient. Assurément, ils ont été les seuls. Oh, vous dites, mes frères Branham, à la résurrection, ils n'y seront pas. Ah non? Non, monsieur. Jésus a dit, il disait, et tu prétends être aussi grand que Moïse, et tu as dit que tu étais, que tu avais vu Abraham? Et il disait, alors qu'Abraham est mort? Voyons, tu n'as pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham? Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh là là, le « je suis », le Dieu éternel, toujours présent. Pas hier, pas demain, je suis. Voyez, le Dieu toujours présent. L'Elohim, je suis. Alors ils prirent, ils ont voulu le tuer à ce moment-là. Ils disaient, « Eh bien, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Dieu a fait descendre du pain directement du ciel et les a nourris. Ils allaient à l'église et ils ont été de bons membres d'église pendant 40 ans. Ma vieille maman est morte dans cette église-ci et tout le reste. Mes pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. » Et Jésus a dit, « Et ils sont tous morts. » Mort, ça veut dire la séparation éternelle. Ils sont tous morts. Mais moi, je vous dis que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Si un homme mange de ce pain, de l'esprit, il a la vie éternelle et ne peut pas périr. Et je le ressusciterai au dernier jour.
Wonderful, isn't Jesus our Lord? Wonderful, eyes have seen, ears have heard, what is recorded in God's Word, isn't Jesus our Lord?
Oh, frère, n'est-il pas merveilleux? Pas vrai? Nous voyons son esprit de discernement qui se déplace au milieu de nous. Nous le voyons accomplir des miracles, des signes et des prodiges. Nous l'entendons, c'est écrit, tiré directement de la parole, ici, et vous en voyez la confirmation directe, là. Oh là là!
Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word, isn't Jesus my Lord? Wonderful!
Encore deux ou trois minutes, il y aura un service de baptême d'eau ici. Et maintenant, pour ceux qui vont être baptisés, que les femmes aillent de ce côté-ci et les hommes par ici, de ce côté-ci. Donc les hommes à ma gauche, par ici, de ce côté-ci, et les femmes de ce côté-ci. Il y a des sœurs qui vous attendent là avec les vêtements appropriés. Alors s'il y a un homme ou une femme ici ce matin, et vous êtes convaincus, vous croyez à la parole de Dieu, et vous croyez que Dieu tient sa promesse, qui dit que si un homme se repent complètement de tout son péché, à ce moment-là, le sang n'a encore rien accompli. Non, c'est seulement votre foi en Dieu. Dieu appelle. Il vous appelle simplement. C'est ça qui se passe en ce moment. Je n'ai jamais été baptisé. Mais si seulement je pouvais commencer à agir différemment. C'est justement ça. Commencez. Et après vous agirez différemment. Après que vous aurez pris le départ. Voyez? Vous devez faire demi-tour, prendre le départ, vous voyez? Vous dites, eh bien, je ne l'avais jamais vu tout à fait comme ça. Eh bien, cher frère, je voudrais que vous me montriez un seul passage de l'Écriture ou quiconque. C'est ce que je propose depuis 31 ans de ministère, autour du monde, devant des évêques et tout, où une seule personne ait déjà été baptisée autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui n'avaient pas été baptisés dans le nom de Jésus devaient venir se faire rebaptiser dans le nom. Dieu n'a eu qu'un seul nom, et son nom est Jésus. C'était son Fils. Il a pris le nom de son Fils. Dieu. Or, Jésus, le corps, c'était un homme. Ça, nous le savons. C'était le Fils de Dieu qui avait été couvert de son ombre. Or, nous ne croyons pas à une unité comme celle dont parlent les gens qui disent que Dieu est comme votre doigt. Nous croyons qu'il y a trois attributs de Dieu. Trois attributs de Dieu dans lesquels il s'est manifesté. Mais il y a un seul Dieu. Voyez, c'est exact. Nous croyons, je vais l'exprimer comme ceci, nous croyons que Dieu a existé en trois fonctions. Il a eu une fonction sur terre à un moment donné. Maintenant les femmes, allez de ce côté-ci, et les hommes, allez de ce côté-ci, ceux qui ont à se préparer. Ils se préparent pour le service de baptême en ce moment. Donc, Dieu a eu trois fonctions. L'une d'elles s'appelait la paternité, ou la dispensation du Père. L'autre s'appelait la filiation. Et l'autre s'appelait le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père, aujourd'hui? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a été dans le passé? Jésus. Qu'est-ce qu'il a été avant ça? Mais il s'agissait d'un seul Dieu, pas vrai? Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ces trois-là, ces trois fonctions d'un seul Dieu. Un seul Dieu. Mais Père n'est pas un nom, n'est-ce pas? Je voudrais vous poser une question. Là, je veux vous citer Matthieu 28, 19, où Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, N-O-M, nom du Père. » Maintenant, je veux voir si vous connaissez bien l'Écriture. Dites-moi quand je vais dévier. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Jusque-là, est-ce conforme? Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Bon, je vais vous citer Matthieu. Maintenant, écoutez. Je demande à n'importe quel historien. Or, ceci est enregistré. Ça va partout dans le monde. Je demande à n'importe quel historien de venir me voir avec un texte biblique, un texte biblique ou une preuve historique, une citation tirée de l'histoire qui indiquerait qu'un protestant ou que qui que ce soit est déjà baptisé dans le nom de Père, Fils, Saint-Esprit avant que l'Église catholique décrète cette chose-là au Concile de Nicée. Et maintenant, c'est enregistré, ça va dans le monde entier. Les bandes sont traduites dans 37 langues différentes. Je suis même prêt à vous faire traverser l'océan à mes frais. C'est exact. Père, Fils et Saint-Esprit, C'est un dogme catholique faux, une fausseté. Ce n'est pas un baptême chrétien. Exact. Luther a pris ça de l'Église catholique, avec le catéchisme, et Wesley l'a adopté, et ça a continué. Mais c'est maintenant le jour de la manifestation des fils de Dieu, où les mystères qui avaient été cachés depuis la fondation du monde doivent être révélés. C'est maintenant l'heure, certainement. Rappelez-vous, dans la Bible, pas une seule personne n'a été baptisée dans le nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Pendant les 300 ans qui ont suivi la mort du dernier apôtre, personne n'a jamais été baptisé dans le nom de Père, Fils, Saint-Esprit. J'ai lu les deux, les Pères avant Nicée et le Concile de Nicée. C'est là qu'ils ont organisé ce qu'ils appellent l'Église chrétienne universelle. Ils en ont fait une organisation et l'ont imposée à tout le monde. Et c'était l'Église catholique. Le mot même, catholique, veut dire universel. Une Église chrétienne universelle, mondiale, une seule Église qui couvrirait le monde. Et ce christianisme, ils l'imposent aux gens. C'est là qu'ils ont adopté. Ils ont enlevé Vénus pour mettre Marie. Ils ont enlevé Paul ou Jupiter pour mettre Paul. C'est encore du paganisme. Exact. L'Église catholique, c'est de là qu'elle est sortie. Et 500 ans plus tard, en ce moment, à Louisville, il y a Ben Hur à l'affiche. Il n'y a pas longtemps, il y a eu les 10 commandements. J'aimerais vraiment, un jour, qu'ils puissent mettre en scène les 1500 ans de l'âge des ténèbres, si possible. J'aimerais vraiment qu'ils affichent ça. 1500 ans de persécution païenne, alors qu'ils s'imposaient à tout le monde, qu'ils les tuaient, les massacraient, les pendaient. Ils leur attachaient un bœuf à une main et un bœuf à l'autre main, et les obligeaient à baiser le crucifix. Sinon, ils faisaient avancer un bœuf dans un sens ou dans l'autre. J'ai été en Suisse, là, et j'ai mis ma main derrière les montants, à l'endroit où ils les installaient, et on leur coupait la langue, et on les traitait de sorciers et tout le reste. C'est tout à fait exact. Exact. Et c'est le même esprit qui existe aujourd'hui. C'est seulement la loi qui l'empêche de se manifester. Attendez qu'il reçoive sa liberté. La Bible l'a dit. Attendez seulement qu'il se montre sous son vrai jour, qu'il en ait la possibilité. Il se pourrait bien que vous la lisiez dans peu de temps, pour autant que je sache. Voyez? Ça viendra, ça viendra. Il n'y a aucun moyen de l'empêcher. Ça doit venir. C'est exact, ça doit venir. Ça va venir. Alors, et quand ça viendra, faites bien attention. Mes frères, la chose qu'il vous faut savoir, c'est ceci. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Nous continuons notre marche. Voyez, c'est ça. Une fois, quand j'ai dit à celui qui a écrit la Bible, Lamza, quand il a regardé, en voyant cet ancien signe de Dieu, exactement celui-là, exactement, avec les trois petits points, j'ai dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Il a dit, « C'est Dieu en trois attributs. » J'ai dit, « Tel que Père, Fils et Saint-Esprit. » Il m'a regardé, il a dit, « Vous croyez ça ?» Et j'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Quand j'ai vu opérer ce discernement l'autre soir, j'y ai pensé, que vous étiez un prophète du Seigneur. » Il a dit, « Que Dieu vous bénisse. » Il a passé son bras autour de mes épaules et il a dit, « Maintenant, je le sais. » Il a dit, « Les Américains, ils ne savent même pas. » Il a dit, « Ils ne savent rien du tout. » Il a dit, « Ils essayent de prendre un livre oriental et d'en faire un livre occidental. Ils ne connaissent même pas leur Bible. » Il a dit, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom, car tous ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Trois personnes en un seul Dieu, ça n'existe pas, ça. » Et lui, c'est frère Lamza, le docteur Lamza, le traducteur de la Bible Lamza, qui est un ami intime d'Eisenhower et de tous les grands diplomates du monde et tout. Il m'a entouré de ses bras et il a dit, « Un jour, ils vont vous abattre à cause de ça. » Mais, il a dit, « Souvenez-vous, tous ces gens-là meurent pour une cause. » J'aimerais être comme le vieux Pierre quand il était là en prison. Il y avait un jeune homme là-bas, il était tout inquiet. Et il a dit, « Oh, qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit, « Es-tu au courant qu'on va t'exécuter ?» Pierre a dit, « Oui. » Il a dit, « Mais tu vas mourir aujourd'hui. » Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Mais tu n'as pas peur ?» Il a dit, « Non. » Il a dit, « Tu dois être un de ceux qu'ils appellent les chrétiens. » Il a dit, « Oui. » Il a dit, « qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il lui a raconté. Il s'est assis et lui a raconté ce qui s'était passé. Et comme il lui racontait, à la fin de son récit, il a dit, « J'aurais pu être libre ce matin, j'aurais pu aller me joindre à une dénomination quelconque et j'aurais continué à vivre, simplement, tu vois. J'aurais pu être libre. Seulement, j'allais passer la porte de la ville et j'ai vu quelqu'un qui arrivait, qui entrait. Je savais qui c'était. J'ai dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Il a dit, « Je retourne pour être crucifié de nouveau. » Il a dit, « Je suis revenu. » Juste à ce moment-là, on a dit, « Qui ici s'appelle Simon-Pierre ?» Il a dit, « Me voici. »
And now I'm not afraid, let mine be the next one. That's right. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mangled their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen, but there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. It's dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. That's the scripture before we go. And they said unto Peter and the rest of them, Men and brethren, what shall we do to be saved? Peter said unto them, Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. The Lord bless now. While we get out of the way, you can watch the baptism as we finish.